Je suis la nuit. Je suis Batman. Et je type la cellule.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette 9e saison de La Cellule. Oui. Aujourd'hui avec Fabien Ilvine qui va nous présenter un jeu incroyable.
Innommable de Christophe Buckley.
J'entends vous parle depuis des années mais qu'on n'a jamais testé.
C'est ça, ici, nous sommes avec Flavie. Flavie, on aura reconnu ta voix.
Flavie qui fait des ASMR est disponible pour toutes vos fêtes.
On ne t'entend pas.
Pourquoi est-ce qu'on parle comme ça?
Parle dans le micro, Flavie.
Je disais Flavie qui parle bizarrement pour ce début de 9e saison.
Tout à fait, nous sommes également avec Emmanuel. Emmanuel,
ça va la pêche? Hello, ouais, ça va, j'ai les doigts qui collent, c'est terrible.
Oh là là, nous sommes avec Maxime à propos de doigts qui...
Voilà, exactement, je ne dirai pas pourquoi.
Et nous sommes également avec Dorian Chandelier. Dorian, ça va la pêche?
Bonjour, ça va la pêche.
La pêche. Eh bien...
Moi, je serai l'être calme dans la tempête.
Toujours.
Il a toujours commencé
ses podcasts comme ça, mais...
C'est notre côté darky, tu vois.
c'est du diesel.
Voilà, c'est ça. Fabien, tu vas nous présenter un jeu qui n'est jamais sorti. Et pourtant, c'est un one-shot. C'est ça qui est bizarre.
Alors, il s'agit donc de Innommable, horreur métaphysique de Christophe Buckley. Oh, nous ne sommes pas dignes.
Alors, est-ce que...
Donc lui aussi, va finir à poil, je pense, Christophe, il faut que tu viennes.
Comme on disait en préparation de ce podcast, donc Fabien voue un véritable culte à ce jeu.
C'est marrant parce que je disais, tu me disais, il y a plein de gens qui adorent ce jeu et tout. Je fais, écoute, j'ai l'impression que c'est un culte dans lequel je suis le seul pape et le seul fidèle. Il y a d'autres gens qui aiment Innommable, évidemment, mais ouais, j'ai l'impression d'être
un peu tout seul.
En tout cas, ouais. Donc, c'est un jeu dans lequel on joue des parties qui... À l'origine, devait faire des histoires façon Lovecraft, ouais. Donc horreur métaphysique, le sous-titre du jeu. Donc on joue des gens dans des situations, des gens a priori lambda, dans des situations qui au départ sont, qui ont l'air d'être assez relativement normales. C'est important que ce soit au départ des situations des huis clos. C'est à peu près la seule contrainte de base sur la situation. Et ensuite, ça dérape. Parce que y a des antagonistes qui cherchent à invoquer ce qu'on appelle la source. Donc, si vous traduisez ça dans du Cthulhu classique, c'est des sectateurs qui cherchent à invoquer un grand ancien.
Ouais, dans Charmed, c'est la méchante, la source, de toute façon.
Ah, c'est possible.
Oh mon Dieu, Shannon Doherty, si tu nous écoutes, quelqu'un pense encore à toi ici.
Je désolé. Ce jeu est un bijou, vraiment est un bijou qui moi m'a inspiré de façon extraordinaire comme auteur de jeux de rôle. Monostatos est très fortement inspiré par
Innommable.
Sphinx est une évolution très prolongée de Innommable.
Est-ce que Innommable, c'est pas un petit peu à Fabien Ilvine que Dogs in the Vineyard est à Frédéric Saint-Hès, quoi?
Oui, en toute modestie, ouais.
C'est le jeu que vous avez ce jeu que tu as digéré pendant des années et des années.
Dont je suis toujours pas sorti, en fait, parce que mon prochain jeu sur le langage de Babel, je pense que en tout cas, j'ai très envie de reprendre Innommable et d'essayer de le retravailler une xème fois pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que pour moi ça marche tellement bien, pourquoi il est tellement bien, quoi.
C'est fou, ça.
C'est un jeu. Alors, je vais donner un peu plus d'informations factuelles. C'est un jeu qui donc effectivement n'est pas sorti parce qu'il a un statut un peu spécial. Christophe, j'ai encore écrit il n'y a pas longtemps pour lui poser la question, me disait que le jeu est disponible, donc dans une certaine mesure il est achevé, au sens où il est public. Vous pouvez le télécharger dans sa version 0.8 ou 0.9, 0.9 si vous lisez l'anglais, mais ça ne change pas grand-chose. Prenez la 0.8, ce sera très bien. mais il n'exclut pas de d'y retravailler dans le futur et de le reprendre quand il se sentira un peu plus sûr de lui ou quand il aura l'impression d'avoir des...
Non, et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas payant, ce jeu.
Ouais, et puis la dernière fois qu'on a parlé de ça avec lui, il disait qu'en fait, il n'avait pas réussi à faire ce qu'il avait dans la tête et ce qu'il voulait faire quand il jouait. Il n'avait pas les sensations qu'il voulait avoir, en fait.
J'ai l'impression que la magie est un peu passée aussi avec ce jeu. C'est-à-dire, il n'a pas envie non plus forcément d'y revenir parce que
ouais,
quelque part...
C'est du passé, quoi.
C'est du passé.
Ben, c'est ce que je te disais, comme ouais. moi, ce que je te disais avec Monostatos, quoi. Je pense que c'est un jeu auquel je pourrais pas tout de suite retravailler parce qu'au bout d'un moment, ben, t'as envie de passer à autre chose. Mmh. Donc il est disponible, c'est un fichier avec que du texte qui est bien mis.
Donc on parle bien du fichier, pas de Christophe. Le fichier est disponible.
C'était ambigu.
Merci beaucoup.
Donc, il est téléchargeable sur le site de l'Impromptu, hein, où vous trouverez également les petites choses oubliées, ouais. Dans un tout autre style. Et qui est donc le fichier est très court. Il fait une vingtaine de pages.
Attends, parce que Dorian a dit en dehors des micros, l'Impromptu, c'est vraiment pas un site de jeu de rôle. Ça te fait penser à quoi ?
Je dis, on dirait vraiment pas un nom de site de jeu de rôle.
D'où ma question, ça te fait penser à quoi ?
L'Impromptu. Je m'attendrais à tomber sur le site d'une boîte échangiste, moi, sérieusement.
Mais qu'est-ce que le jeu de rôle, Dorian ? Oui. On va pas refaire le podcast.
Spoiler. Pour un peu qu'ils aient une page de garde avec un petit texte que je m'embêterais pas à lire, entrer, sortir, alors que c'était un fond tout noir, etc. Je fais oula.
C'est un joli fond blanc avec un petit bonhomme de neige. C'est mignon comme tout.
Sylvie, Christophe, si vous voulez que votre site soit plus visité, demandez juste si le visiteur a plus de 18 ans ou pas, et vous allez obtenir plus de visites.
Et donc on joue pas un jeu, on joue un fichier visiblement.
Et oui,
c'est un jeu. Donc le jeu est très facilement lisible. Hein, ça se lit en une heure. Les préparations sont très rapides. Si vous avez peur de créer votre propre préparation, je pense que je mettrai les miennes sur le site de l'Alcyon. Elles y sont pas encore, mais j'irai mettre mes.
Ce que tu entends par préparation, c'est y en a disponible par ailleurs, ou sinon c'est normalement le rôle de quelqu'un.
Voilà,
de
c'est
faire
le rôle du MJ de faire une préparation.
Ça prend combien de temps de faire une préparation si
30 minutes moins, et même moins, 20 minutes. Hier soir, j'en ai fait une parce que je m'ennuyais en un quart d'heure. Ça prend une page. Hein. Je vous en montre de loin. Voilà, ça c'est des préparations. Le jeu te guide vraiment bien pour créer tes personnages. Il te guide vraiment bien aussi pour créer tes préparations. Il te guide vraiment bien aussi pour créer tes personnages. Je crois que pour moi, c'était un des premiers jeux où je me suis dit, tiens, on peut faire un jeu sans scénario, mais avec quand même une préparation, tu vois. Sans scénario au sens où tu as des événements scriptés qui doivent intervenir avec des actions attendues de la part des joueurs. J'ai l'impression que tous vous vous emmerdez, que vous endormez.
Non, c'est juste que c'est très clair ce que tu racontes.
Ah, okay.
Il n'y a aucune question à poser.
Je pensais à des blagues, mais je ne les ai pas faites.
Pareil, j'ai pris comme leçon de moins interrompre les jambes pour éviter de faire du max-planing.
Moins interrompre les jambes.
C'est mignon le max-planing.
C'est ce que j'ai entendu, je suis désolée.
Que dire d'autre ? Donc les personnages se jouent. Alors c'est systématiquement des parties en one-shot. C'est un jeu dans lequel il n'y a pas de campagne. Assez dans la veine de Lovecraft. On pourrait se poser la question après ce que c'est comme genre. Est-ce que c'est vraiment fait pour faire du Lovecraft ? Christophe pense que non.
Ouais, c'est plus pour faire du Love que du Craft, hein, si tu veux mon avis. C'est louf un peu.
C'est un peu louf.
Hein.
C'est un peu louf, ouais. Ouais. Et ça crée des parties.
Anagramme.
C'est un peu fou.
C'est un peu fou.
Un peu loufoque.
Comme les Looney Tunes, les loufs.
Loufoque.
Ouais, et ça crée des parties qui sont incroyables.
Je n'entends pas.
Très très riche.
Si vous parlez en dehors des micros, je ne vous entends pas, les gars. Donc vous pouvez me parler.
Parce que pour moi, un louf, c'était un prout. T'as loufé.
Ah, si, t'as loufé. C'est possible.
et un loufoque, c'est une bestiole très bizarre.
Mais innommable peut être de ce type.
Oh, mais les parties que j'avais faites.
On va se concentrer un peu, donc revenir sur le jeu.
Ce podcast sera innommable, je pense.
Fabien tente de sauver les meubles.
Donc on a saisi que c'était un jeu incroyable avant les interruptions.
Les règles sont très intéressantes. C'est un peu difficile de les résumer. Si, quand même. On peut les résumer comme ça. Au centre de la table, il y a un bol qui doit s'appeler, je crois, le bol du destin. Au fur et à mesure de la partie, le MJ a une grosse réserve de dés. Ah oui, alors peut-être la seule difficulté de ce jeu, c'est qu'il faut posséder plein de dés. Là, comme vous le voyez, j'ai une chaussette à dés. Les auditeurs ne peuvent pas la voir, mais j'ai une chaussette dans laquelle j'ai mis plein de dés. Et,
pas pratique pour marcher, si c'était la question.
Genre, je disais juste que j'avais les mêmes.
Et
mais elles n'ont pas la même odeur, si tu veux mon avis.
Et donc... Et il faut vraiment, quand je joue à Ignobles, c'est comme quand je joue à Dogs, il faut que je sorte tous mes dés, ensuite que je trie, parce qu'il y en a vraiment des kilomètres. Et donc, au fur et à mesure de la partie, chaque fois que les personnages, enfin, que le MJ fait une révélation issue de sa préparation, il va mettre des dés dans le bol, comme ça.
Ouais. Et Christophe disait que le tintement était très très très
parce que c'est comme l'horloge du destin qui avance, et donc au fur et à mesure comme ça et là vous rencontrez tel truc et là un autre etc etc
et le bol du destin quoi, comme The Peak of Destiny quoi, c'est tellement ça. N'importe quoi quoi.
Ah, c'est le médiateur de destin métalleuse de
c'est
Christophe
clair qui se retrouve ici,
c'est vrai, oui, ouais, tout à fait, oui. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et donc et ces dés donc sont disponibles au milieu de la table et les joueurs peuvent prendre des dés dans le bol, et suivant ce qu'ils prennent dans le bol comme type de dés, ils vont devoir raconter certains trucs. Et ces dés, il faut qu'ils les prennent s'ils veulent avoir une action sur l'histoire. Donc plus les dés sont gros, plus ils sont faibles. Il y a une mécanique après, je pourrais vous expliquer, mais si tu prends un dé 20, tu dois raconter une prémonition ou un rêve. Enfin, il y a un truc un peu étrange qui se passe.
Flash forward.
Ou même un flashback aussi. Tu peux te souvenir de quelque chose dans ton passé. Souvent les nuits, c'est un bon moment pour prendre ton premier dé 20. Si tu prends un dé 12, tu racontes une hallucination, donc tu as une scène entière où ton personnage se met à halluciner des trucs, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. La différence entre dé 20 et dé 12, c'est que dé 20, ça dure moins longtemps et que tu te rends compte que ce n'est pas réel. Dé 12, tu es convaincu d'avoir vu des trucs comme ça. Dé 8, tu commences à découvrir des connaissances occultes, tu lis des bouquins pourris, tu trouves un artefact mystérieux. Et dès 4, tu invoques un effet surnaturel. Donc là, tu commences à invoquer des pouvoirs magiques, arbres, etc.
Il n'y a pas de D6
Non, effectivement. Non. C'est D20, D12, D8, D4.
Tu sais le relou ? Non, il y a une raison à ça.
Oui, tout à fait.
Bon, tu l'expliqueras.
Bah, vas-y, explique.
Alors, c'est parce que les dés que Christophe a choisis sont des... c'est quoi ? C'est des tétraèdres, c'est ça ? C'est des figures géométriques à 3, enfin des multiples de 3
Platoniciens. En fait, c'est des...
Ah, c'est des solides platoniciens.
Des solides platoniciens.
Le cube en est un, non ?
Alors, il y a une histoire comme quoi...
Ça m'a jamais convaincu.
Ils voulaient des dés triangulaires... Pour une raison, tu vois, c'est plus piquant, c'est plus, c'est plus métaphysique.
Ils ont tous des faces triangulaires et pas carrées, visiblement. Ça,
pour lui, un cube, c'est pas métaphysique.
Moi, il y a directement un truc qui m'interpelle. C'est que l'évolution des dés, c'est-à-dire qu'on va du D20 au D4, me paraît contradictoire avec l'évolution des choses qui doivent aller de plus en plus hautes, alors que techniquement, on a des dés qui vont être de plus en plus petits.
Tu peux voir ça aussi comme une déchéance. Parce qu'en fait, alors donc mécaniquement, comment ça se passe ? Quand le MJ te demande de faire un jet, le MJ a le droit de t'agresser qu'une seule fois par scène, mais toi après
parce que par semaine c'est un peu compliqué
de t'agresser. C'est-à-dire il y a un sectateur qui court vers toi avec un couteau ondulé, voilà. Agression toute simple. Et après, tu peux faire des trucs du genre « Ah, j'essaye de me jeter du haut de la falaise pour attraper l'hélicoptère en marche » ou des trucs comme ça. Et donc, à ce moment-là, tu lances tous les dés que tu as. Tous les dés qui font un pair comptent pour une réussite. Tous les dés qui font un pair comptent comme zéro réussite. Et...
Attends, répète ça.
Tous les dés qui font pair comptent comme une réussite. Voilà. Tous les dés qui font impair.
Parce que tu t'es trompé. T'as un impair. Quoi.
Réussite, c'est un relatif.
Enfin, un impair, c'est que c'est
pas une réussite. Un impair, t'as une réussite.
Comme réussir, c'est relatif. Du coup, si on dit que les pairs sont une réussite, automatiquement les impairs sont.
Des échecs, ouais.
Pas forcément des échecs, mais en tout cas pas une réussite.
Pas une réussite, ouais. Alors pourquoi tu disais plus le dé est grand
Justement, j'y arrive. Si tu obtiens la valeur maximale du dé, donc un 4 pour un D4, un 12 pour un D12, un 8 pour un D8, un 20 pour un D20, tu obtiens deux réussites. Et parfois, je vous jure que ça fait vraiment la différence. Donc le D4 est nettement plus puissant que le D20.
Ouais.
Si tu fais un 1, ça augmente la puissance de la source. Enfin, ça fait tout un tas de...
Ah oui.
Si malgré... Et donc tu dois... pour réussir ton jet, donc pouvoir raconter ce qui se passe, tu dois faire autant ou plus que la valeur de la difficulté actuelle de la partie. Il y a un D6 au milieu de la table qui représente cette difficulté. Elle commence à 1 et puis elle augmente graduellement.
Ah oui, il y a ça dans Innommable.
De la partie, oui, tout à fait. Difficulté augmente progressivement durant la partie, ce qui fait que mécaniquement, tu es incité à aller chercher les dés dans le bol et à en avoir suffisamment si tu veux survivre, parce que je te promets qu'il n'y a pas assez de dés pour tout le monde.
Et donc, du coup, combien de dés se retrouvent à peu près dans le bol à un moment où un joueur fait un jet, grosso modo, combien de dés il doit choisir?
Alors, les dés, tu les prends durant la partie. Hein, pas
tu
forcément...
les prends durant la partie et, ouais. Ok.
Tu peux les prendre pour un.
Tu peux pas prendre plusieurs dés en même temps et du coup tu vas me raconter une double hallucination.
Tu peux en faire un, tu en prendras un, mais en prendre plusieurs c'est considéré comme impoli par le jeu.
Si tu dois faire un jet alors que t'as pas de dés,
et ben.
Et c'est échoué.
C'est échoué.
Échoué automatiquement.
Donc.
Et alors donc, je suis désolé, on passe un peu de temps sur le système de jeu, mais il est vraiment vraiment intéressant, hein, promis.
On va le décortiquer en détail après, t'inquiète Fabien.
Donc si tu veux, oui, vas-y, Fly.
Du coup, plus on avance, plus il va falloir prendre des dés, parce que plus ça avance, plus la difficulté augmente. Et il me semble que plus du coup cette difficulté augmente et plus tu perds des choses de fait sur ta fiche, il me semble.
Oui, alors j'arrive à ça dans une seconde. Si tu rates ton jet, c'est le MSJ qui raconte ce qui se passe. Si tu as réussi, c'est toi qui racontes ce qui se passe. Et tu peux raconter des trucs assez forts, hein, genre je tue le mec. Enfin, il y a pas beaucoup de limites du côté des joueurs, en dehors du fait que tu peux pas résoudre le problème tout seul. Du côté du MJ, il y a des limites auxquelles je reviens à toi, Fly, dans une minute. Si tu as raté ton jet, tu peux dire c'est pas grave, je relance tous les dés qui ont fait un impair. Mais en échange, tu dois raconter quelque chose d'étrange et inquiétant. Donc tu pourris un peu ton personnage. En tout cas, tu suggères qu'il est... Donc étrange et inquiétant, ça peut être des trucs surnaturels, du genre tu te mets à parler dans une langue que tu connaissais pas jusque-là. Il fait un truc auquel on s'y attendait pas parce que ça sort de son code de morale habituel. Étrange et inquiétant. Si malgré ça, t'as toujours pas réussi...
Fais attention. Hein.
Tu peux choisir de rayer ton... de sacrifier ton attache. Ton attache, c'est ce qui fait que tu es humain. Ton chien, ta croyance en Dieu, quelqu'un que tu aimes, etc. Si malgré ça, tu n'as toujours pas réussi, tu peux sacrifier ton personnage et réussir automatiquement ton jet. Je meurs, mais j'atteins ce que je veux. Par exemple, si j'essaye de tuer le grand ancien, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Bah, si tu te fais sauter avec de la dynamite, peut-être que ça marche mieux. Quoi.
Chevalier du Capricorne, je suis derrière toi et je compte bien t'emmener dans les cieux et mourir à tes côtés.
C'est ça.
Innommable chevalier.
Non.
Et donc pour...
Flavie, arrête-toi tout de suite.
Et donc pour répondre à Flavie, le pendant de la... Le MJ n'a pas le droit de faire de mal au personnage. Il n'a pas le droit de faire de mal au personnage n'importe comment. Il a devant lui ce qu'on appelle la feuille du destin.
La feuille du destin. Ouais, c'est ça.
Sur lequel il y a le nom des attaches et le nom des personnages. Et chaque fois que quelqu'un pioche dans le bol ou rate un jet de dés, le MJ écrit son nom sur la feuille du destin.
Ouais.
Chaque fois qu'il veut lui faire subir un outrage, il raye un nom sur la feuille du destin.
Alors,
les deux premières fois, il raye un outrage, c'est un outrage mineur. Un outrage donc mineur, il faut qu'on... le MJ se gère tout seul pour faire des trucs...
T'es recouvert de sang.
Ouais, t'es recouvert de sang, tu peux avoir une blessure mineure, t'as un truc un peu bizarre qui t'arrive.
Est-ce que le meneur de jeu doit dire ça avant la partie? Est-ce que tu dois le dire?
Oui, alors moi je suis parfaitement transparent là-dessus et la feuille du destin est accessible
à tout
le monde.
Parce que moi quand j'ai joué, il ne m'avait pas dit ce qu'il faisait sur la feuille.
Le consentement, c'est important.
Non, mais moi, je trouve ça trop bien. Non, mais au contraire, moi, j'avais kiffé ça. Il prenait des notes quand on faisait des trucs et on entendait le bruit.
Pas joué depuis longtemps, parce que moi, quand j'y ai joué, il y avait déjà ça. Hein. On te montre.
Mais c'est ce que je te dis.
Ouais. Non, mais il montrait. Hein.
Il t'expliquait ça. Ouais. Ah non, moi, il était avec son bloc-notes et il rayait. Et t'entendais le bruit, tu sais. Le bruit caractéristique du crayon.
Il y a peut-être une personne qui lui a fait remarquer que c'était pas super safe et que du coup après il a prévenu les gens.
De safe, mais on
donc les deux premiers c'est un outrage léger, les deux suivants c'est un outrage grave. Outrage grave c'est tout sauf qu'il rend ton personnage injouable. Et à partir du cinquième outrage, donc ça va quand même assez vite, ton personnage peut mourir.
Voilà,
ouais. Ou être rendu injouable, ou être rendu fou. Il ne peut pas te trahir.
Alors, soyons clairs, moi, les fois où j'ai... Enfin, c'est quasi impossible de rester en vie.
Mmh. Alors, si, c'est possible, mais il faut en mettre plein sur ton attache. Parce que tu as un deuxième truc qui est ton attache.
Mais tu n'es plus vraiment toi.
Voilà, c'est ça. Évidemment, c'est un jeu qui est entièrement sur le thème de la perversion ou de la corruption personnelle. Que ce soit en prenant des outrages ou en piochant le dé, tu es tout le temps en train d'avancer vers la source. La question, c'est comment tu vas le faire. Et tu peux aussi, donc c'est pour ça que tu peux sacrifier ton attache, que tu peux te sacrifier toi-même. Tu peux t'en aller, tu peux trahir aussi. Tu peux s'en aller ou trahir, s'enfuir ou trahir, c'est entièrement le joueur ou la joueuse qui choisit.
Ouais.
Maxime.
Le but du jeu, c'est de jouer quand même pour notre personnage ou de play to lose, de juste jouer une déchéance la plus belle possible.
Non, pour moi, c'est... Alors, c'est pas précisé dans le jeu. Moi, je te conseille vraiment de jouer pour ton personnage, d'essayer de t'en sortir.
Dorian,
question. Quand tu dis que c'est possible de fuir, du pur point de vue ludique, ça peut... en quoi ça a du sens pour de fuir dans le jeu
Ton personnage survit. La difficulté, c'est qu'il ne peut plus intervenir directement sur les événements.
Donc, il ne peut plus intervenir du tout.
Peut-être que le grand ancien va être invoqué et puis lui va être dévoré en même temps que le reste du monde.
Ouais,
mais tu te retires. Un truc super intéressant dans Innommable aussi, c'est que les morts continuent à jouer. Si vous êtes mort, vous gardez la moitié de vos dés que vous aviez et vous pouvez les donner aux joueurs, les forcer à prendre un truc. Dire, et là, tu vois un tel truc, et là, tu découvres. Ouais. Je me souviens d'une partie, la toute première partie qu'on a jouée avec Rome, je jouais un prêtre, puis je dis, oui, là, je suis dans une bibliothèque, je prends une Bible, et puis Romaric me tend un D8, donc le D8, c'est le dé des connaissances occultes, il me dit, c'est pas que une Bible.
J'aimerais rajouter, je ne sais pas si c'est marqué en fait dans le manuscrit, qu'il faut vraiment jouer dans cet univers Lovecraftien.
Lovecraftien, ouais.
Parce que quand j'ai joué des fois avec des gens qui invoquaient des trucs totalement chelous et pas du tout, genre je me transforme en fusée qui fait des étoiles, etc.
Qui a fait ça?
Je vois pas du tout Romaric.
Qui a osé?
Et du coup, ça te sort de l'immersion. Donc, je sais pas si c'est marqué qu'il faut vraiment rester dans cet univers.
Le jeu ne le dit pas. Alors, c'est vrai qu'il y a une forme de régulation dans le délire qui va se créer autour des joueurs, parce que t'as le choix de prendre ou de ne pas reprendre ce que les autres ont dit. Notamment le MJ, quand un truc lui plaît, il peut le reprendre et faire augmenter la difficulté. Ce qui est une manière de valider. Mais si ça se trouve, t'étais juste dingue, quoi. Et il a juste pris trop de LSD, il a vu une fusée. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on joue.
Tu sais que ça reste un de mes trucs quand des fois j'imagine cette partie, j'imagine une fusée qui fait des étoiles.
Et
avec
le Megaman qui lance du sperme aussi par son canon.
Ah, ça c'est une partie, on avait promis de ne jamais en parler.
Ah, d'accord, okay, excuse-moi.
Il y a des fluides dans ce jeu, d'accord.
Je ne couperai pas au montage alors.
Ah, il faut en parler, ouais. Maintenant on peut.
Il y a prescription. On verra ça après la partie, bien sûr. Alors on y va. Vas-y, refais-le.
Ah,
le bruit. Le bruit caractéristique d'Innommable.
El Burrito.
On vient de finir la partie d'Innommable. Fabien, première question pour toi. Est-ce que c'était une partie typique pour toi d'Innommable, oui ou non?
C'était un peu borderline, c'est vrai. Mais j'ai trouvé que le jeu a fonctionné comme il devait.
Non, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une partie typique.
Alors, moi j'ai fait des parties moins loufoques. La plupart de mes parties étaient moins loufoques quand même.
C'est pas le cas, non.
Mais...
ça a toujours été comme ça.
Exactement.
Oui, voilà, j'allais dire, on avait un facteur fly quand même qui était.
Il y a l'effet fly, on va dire ça comme ça.
Les fly.
Il y a le facteur cheval, il y a le facteur fly.
Pour le coup, ouais, vraiment. Donc ça a influencé maintenant. J'ai pas trouvé que c'était hors des clous.
Non.
C'est vrai que Innommable produit souvent des parties un peu bizarres. J'ai trouvé qu'il y avait tout à fait un effet dont je voulais parler, qui est cette espèce de délire collectif où chacun se renforce en fait dans ce qu'il invente. et puis petit à petit construit sur les trucs des autres. À la fin, ça fait un espèce de bouquet final où on n'a presque même plus besoin de mots, où on se dit oui, alors je fais des trucs avec le sang et le feu et je trace un pentacle dans l'air et,
ouais, c'est souvent un exemple que tu cites comme une illustration justement du vide fertile avec ce phénomène d'entraînement où on se sent poussé en fait par les règles dans des retranchements ou dans des lieux dans auxquels on ne s'attendait pas finalement.
Tout à fait, ouais. Et il n'était pas très fort, mais il était quand même bien existant. Donc ouais, c'était une partie.
Non, pour moi, elle était typique d'Inamab.
Moi, comme dit, j'ai eu des parties plus entre guillemets plus sérieuses.
Mais il y a eu aussi du sérieux, il y a eu aussi de l'angoisse,
plus profonde, plus
début
angoissante.
Le début en fait de la partie. À partir du moment où le duel avec les cultistes a commencé, là on est là, c'est devenu vraiment presque du super héros. J'ai envie de dire un jeu de super héros quasiment.
On parle des 10 dernières minutes, quoi.
Voilà.
Alors mais c'est rigolo ce que j'allais dire. Dorian, l'histoire qu'on a produit. On aurait vraiment dit du Lovecraft vu par le filtre de Warren Ellis, auteur de comics qui fait des trucs dans le genre.
Ouais, c'est ça. Mais uniquement pour la fin.
Oui, uniquement pour la fin.
Parce que finalement, tout le début, c'est très classique. On est presque dans un épisode d'X-Files, vous êtes dans un observatoire. Tout à coup, alors que vous êtes au Chili et que rien ne vous destine à cela, il y a un espèce de froid qui tombe. Il fait soudain moins 30 degrés et ça va contraindre en fait tous vos mouvements. Vous allez être obligé de vous rassembler dans un réfectoire. Tout ça, c'est très... et pourtant, le soleil brille dehors. Enfin, il y a tout un tas de paradoxes comme ça, météorologiques, qui font vraiment Lovecraft pour le coup. Vas-y, Emmanuel.
Typiquement, je pense que parce qu'au moment où on arrive sur la fin, Fabien fait 4 cases, donc c'est les 4 victoires qu'on doit remporter contre les cultistes.
C'est les PV du boss.
Ouais, c'est ça. Le côté PV du boss, je pense, incite beaucoup aussi. À la fois, elle est très vite. Puisque on a la sensation qu'il faut marquer coup sur coup et à la fois faire de la grosse attaque. Quoi.
Pour être parfaitement juste avec.
Je pense pour parce que là on parle de pas mal de choses, mais pour les auditeurs, ce serait peut-être bien de préciser en fait l'histoire qu'il y a eu à la table, parce qu'à mon avis là ils suivent pas forcément ce qu'on est en train de dire.
Voilà, vous jouez des scientifiques dans un observatoire. Tu veux raconter la fiction de ton point de vue
Bon, ça ira très vite.
Hein, vas-y.
En version short, le chef du laboratoire, plutôt chef administratif. On a deux scientifiques et un agent de sécurité dans le labo. Voilà. Il commence à faire méga froid sa mère. On essaie de résoudre le problème du froid. Et plus ça va, plus on commence. Il se passe des choses cheloues avec des aurores boréales. Donc je passe les visions diverses et variées. On invente. On a des hallucinations. Au fur et à mesure, ça devient de plus en plus chelou avec des agressions, des gens qui s'étouffent. Et comme dans tout scénario d'Innomab, j'imagine, on commence à développer des espèces de connaissances cheloues. Genre, il y en a une qui commence à se dire qu'elle doit devenir la reine du froid pour contrôler les cultistes. Il y en a un qui commence à découvrir que c'est le pouvoir du sang qui lui permet de s'en sortir. Et donc, il commence à essayer de bouffer des gens. Il y en a un qui commence à développer le pouvoir du feu pour essayer de défoncer les cultistes. Et il y a David.
le personnage d'Emmanuel.
Il y a David qui, lui, reste relativement sain. Il se contente de se faire agresser de temps en temps et de survivre. Et à la fin, ça finit en explosion apocalyptique, what the fuck, et on empêche le dieu d'arriver sur Terre.
Et je précise bien que toutes ces inventions-là, c'est des inventions des joueurs et des joueuses. Hein. C'est pas moi qui l'avais préparé.
J'avais un peu le côté prophétique du débile qui essaie de prévenir qu'il y a quelque chose qui va pas et que tout le monde en a rien à foutre, quoi.
Alors,
t'as joué un peu Jésus en fait. Enfin, t'as joué le spectateur, le témoin de l'histoire, quoi.
Et finalement, dans les épilogues,
donc les épilogues, hein, ce sont les petites scènes qui concernent les personnages à la fin du jeu. Vous avez eu la chance de survivre. Ça, c'est quelque chose par contre de particulier dans Innomable. Oh. Oui, sauf ton personnage Maxime qui s'est sacrifié en fait pour permettre de tuer le dernier PV du boss. On va dire ça comme ça pour faire simple, de cocher le dernier carré. Mais sinon, vous avez pour la plupart survécu. Ça, moi, je crois que je l'avais pas vu à Innomable.
J'ai déjà vu des. Mais l'essentiel, c'est pas de survivre, c'est de qu'ils soient corrompus.
Dans quel état ils sont ?
Il y en a quand même un qui est mort, deux qui sont fous. Il y en a un seul qui s'en sort avec son humanité quand même.
Et encore bien secoué. Puisque le personnage est Dorian, donc le directeur devient chef de secte en Amérique du Sud.
Anthropophage.
De secte anthropophage, tout à fait. Ouais. Et le personnage à Fly crée une espèce de marque de glace éternelle.
Bah oui, parce que je peux manier la glace, donc c'est pratique, je peux directement congeler. Donc je crée une marque de congelé sur la Terre qui marche plutôt bien.
Et le personnage de Manu, le témoin, essaye de rendre témoignage.
Alors après, il y a un moment quand même où j'ai failli perdre mon ancrage. Au moment où on était perdu.
L'ancrage, c'est ce qui. Donc, les personnages d'Innommable.
Faut parler de ça.
Ils ont une identité, hein, comme n'importe quel personnage, et ils ont un ancrage. L'ancrage, c'est ce qui les rend humains.
Ouais. C'est ce que s'ils perdent cet ancrage, ils ne seront plus humains. Et donc la plupart des personnages préfèrent mourir exactement ou faire mourir leur personnage. La plupart des joueurs, préfèrent mourir ou faire mourir leur personnage plutôt que de sacrifier leur ancrage.
Ah ouais.
Dorian, à plusieurs reprises, toi, t'en es l'illustration parfaite dans cette partie. À plusieurs reprises, tu fais des choix du point de vue de l'histoire qui font que tu conserves ton ancrage et que tu te sacrifies.
Mais ça, c'est un truc dont je voulais parler. C'est que dans toute la partie, je me suis senti tiraillé entre des mécaniques ludiques et des mécaniques narrativistes. Alors, c'est-à-dire que j'ai commencé beaucoup en me concentrant sur l'histoire de mon personnage. Et après, il y a très vite eu le facteur de « Ah, on passe à deux dans les menaces, donc il faut deux réussites pour réussir un jet de dés. » Dans le doute, je vais un peu me forcer à halluciner. Et quand je te dis que j'ai sauvé mon ancrage, qui était donc le neveu de mon personnage dans l'histoire, bref, peu importe.
Que t'aimais bien.
Au début, pour des questions de mise en scène, et après, parce que je voulais pas le perdre tout de suite, je voulais le perdre que pour une raison importante.
Ah, d'accord. C'est
donc c'était
ça.
Aussi, c'est me garder un joker. Tu vois, quand d'accord. je t'ai dit, ça m'arrange pas de le perdre maintenant, c'était uniquement pour des raisons ludiques plus que pour des raisons narratives.
D'accord, ok.
Le personnage donc de Manu, son ancrage c'était la transmission et finalement c'était devenu une espèce de complotiste qui essayait d'expliquer au monde qu'on allait être dévoré par des grands anciens venus du fin fond de l'espace quoi.
Ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que justement il y a un moment où j'étais à deux Manu. Doigts de le sacrifier et en fait quand on était perdu. Et j'ai hésité, j'ai laissé passer le moment en disant on va voir, il va peut-être se passer un autre truc. Et au final, tu nous as un peu tiré d'affaire par Deus Ex Machina.
Le personnage de Flavie a quand même eu les yeux gelés.
Mais
hein.
Du coup, ouais, c'est le personnage de Flavie qui a trinqué. Donc il y a eu, je sais pas si c'était pas une petite injustice ou.
C'est que la vie est injuste. Là. On n'a pas dit que les grands anciens étaient sympas.
Moi, j'ai toujours un souci quand je joue à ce jeu, parce que ce n'est pas la première fois que j'y joue. C'est d'un côté, il y a des mécaniques très présentes que, pour ma part, je n'arrive pas à oublier parce que j'ai énormément de mal à retenir les règles de jeu. Et du coup, j'ai énormément de mal à les appliquer. Je ne sais pas toujours ce qu'il faut que je fasse, à quel moment je peux sacrifier quoi que ce soit. C'est très nébuleux pour moi. Ce qui fait que, tu disais, il y a un factor fly, je m'en tire généralement en faisant pas mal d'humour. Et parce que ces mécaniques ludiques m'échappent complètement. D'un côté, j'ai envie de gagner parce qu'il y a mon petit côté, j'ai envie de gagner qui est là. Du coup, j'ai un peu de mal à me mettre vraiment dans la narration. Et du coup, je passe généralement à côté du truc parce que c'est trop compliqué en fait. Moi, j'arrive pas. Les dés sont trop présents en fait. T'as trop envie de prendre des dés parce que tu sais qu'il y a le dé 6 qui augmente et donc la difficulté va augmenter. Donc, comme en plus j'ai tendance à avoir la guigne au dé, j'ai envie d'avoir de plus en plus de dés. Parce que c'est compliqué de réussir à faire des paires et du coup moi je passe à côté du truc, je prends des dés régulièrement, pas parce que j'en ai envie mais parce qu'il faut avoir le dé, donc j'essaye de me forcer à faire une scène et du coup je tourne en n'importe quoi à chaque fois.
Dorian, t'as l'air d'être d'accord avec ça.
Je suis entièrement d'accord et j'ai l'impression que malgré tout c'est la mécanique qui amène l'effet
Hystérie collective
désirée par Fabien, en tout cas si ce n'est par Christophe.
Ouais.
J'en sais rien de ce que c'était dans ses intentions. Mais il y a ce côté-là qui vient aussi, puisque effectivement, à partir du moment où ça commence à devenir n'importe quoi, donc on va dire à partir de la moitié de la partie, c'est effectivement le moment où pour moi les mécaniques prennent le pas sur la narration aussi. C'est le moment où ça rend le truc un peu plus fou aussi.
Moi je suis moyennement d'accord dans le sens où déjà dès le début de la partie, je trouve que. On avait tous tendance à gérer un peu comme un jeu de rôle un peu tradi en rigolant, en faisant des blagues à moitié, donc on aurait pu déjà faire plus d'efforts pour être à fond dans l'ambiance, parce que faut dire ce qu'il y a, on faisait beaucoup de blagues, j'ai trouvé, et les scènes où d'un coup ça arrêtait de rigoler et où ça devenait sérieux, c'était les scènes induites par la mécanique. C'est-à-dire c'était le moment où on prenait le dé et tout le monde disait chut, chut, chut. Et là on écoutait tout ce que disait la personne et ça, moi en tout cas à chaque fois ça créait une ambiance un peu lourde. Et je pense que c'est ce qu'attend le jeu en fait. C'est, euh,
ces petits trucs, ça te ramène dans l'ambiance. Et si on avait fait un peu plus d'efforts, tous, hein, on aurait pu rester dans une ambiance beaucoup plus glauque, en fait, si on n'avait pas...
Non. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais en fait, c'est difficile de faire des efforts et de ne pas aller dans le loufoque avec ce jeu à cause de la règle du « raconte un truc ». C'est quoi déjà la règle ?
Étrange et inquiétant.
Ouais.
Tu peux lancer les dés si tu racontes.
Moi, pour moi, c'est cette règle-là qui rend innommable aussi bizarre, parce qu'il y a un moment donné où on est tellement... En fait, on entre dans une phase qui n'est plus de l'ordre de la gradation, mais de la surenchère. Et la surenchère, ça provoque... À un moment donné, comme on demande aux joueurs de très très vite improviser quelque chose, ça crée un phénomène d'attente des joueurs autour de la table qui te pousse nécessairement à en rajouter, à en mettre des caisses et à faire des choses qui ne sont pas, d'un point de vue créatif, très intéressantes, parce que tu le crées sur le vif, tu dois faire tout de suite un truc, parce que entre deux jets de dés, il ne se passe rien en termes de fiction, donc il n'y a pas de maelstrom, tu vois, il faut que tu ailles tout de suite... Et à mon avis, c'est ça le problème de ce jeu. Emmanuel, tu voulais ajouter quelque chose avant que...
Ouais, c'est juste pour réagir sur ce que tu dis. C'est que moi, au début du jeu, j'ai eu la même sensation que quand on joue à Shades. C'est-à-dire que la phase 1, on se contente de prendre des dés 20 ou des dés 12, c'est-à-dire avoir des prémonitions, des visions cheloues. En fait, on improvise de la couleur, voire même avec les visions si on va pas trop loin. Du coup, on met en place des éléments sur lesquels on va pouvoir se resservir plus tard. Ouais. Et en fait, le moment de la résolution, c'est le moment où on se resserre de ces éléments, mais ce coup-ci, on impacte vraiment dans le monde réel. Ouais. Alors, et c'est plus du tout la même dynamique. Du coup, comme dans Shades, on passe d'une phase à l'autre. Tu vois, il y a la phase création de l'univers, et il y a la phase on revit nos souvenirs, et ce coup-ci, on impacte. Quoi.
Je pense que bon,
Fabien.
Un truc qui a un petit peu dit dans les règles, mais qui ça vaut la peine de creuser plus en jouant au jeu, c'est la dimension de recyclage. C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup recyclé, ouais. C'est-à-dire reprendre des éléments des fictions. Par exemple, la toute première vision, c'était la vision du personnage à Maxime qui voit une horloge sur laquelle les chiffres se transforment en yeux, en yeux, ouais. En œil.
Progressivement,
des yeux progressivement, et j'ai repris ça dans les aurores boréales en disant qu'il y avait des yeux, on voyait des yeux apparaître dans les aurores boréales.
Le thème de l'œil est revenu très très souvent. Flavie a perdu, son personnage a perdu les yeux qui sont apparus dans le ciel. Toi, tu as matérialisé la forme des cultistes, la possession des cultistes par ce troisième œil que tu crevais, Maxime. Il y a eu plusieurs
fois. Alors, de ce point de vue-là, je suis désolé, je suis un peu fatigué, donc j'ai du mal à,
le côté recyclage des idées.
Sur le côté recyclage des idées, j'ai trouvé que cette partie, si elle était loufoque sur les contenus, était très cohérente esthétiquement.
Tout à fait.
Ouais. Alors que j'ai eu des parties dans lesquelles c'était rassemblé ou plus on était plus présent dans la fiction et à côté de ça où l'esthétique partait il y avait une personne qui suivait son esthétique, une autre, et puis le MJ qui apportait celle de la préparation, et puis voilà quoi.
Ouais.
Enfin, qui essayait de tout ouais. Mettre
chacun
ensemble,
chacun s'accrochait finalement à la part de fiction qu'il avait créée.
C'est ça.
Sans chercher
là,
à être
là, c'était pas le cas, donc non, c'était, pas assez, du tout, c'était ouais. Quand même assez cool, je trouve, de fonctionner comme un
ouais. C'est
Manu, ouais, vas-y.
Manu.
Ouais, par rapport à ça, alors c'est vrai qu'il y a la thématique des yeux qui est revenue. On a réutilisé le côté
le froid.
Un cas vaguement, le froid. Mais en fait, je me demande si... deux éléments en fait, qui se rejoignent. D'abord, le fait que quand on propose des éléments comme ça, surtout au début... On part dans tous les sens et puis on sent que effectivement Fabien va tout accepter et potentiellement tout réutiliser. Donc du coup, on part dans tous les sens. D'autre part, moi par rapport à la fois au nom du jeu, le vocabulaire de Fabien au début, le mot outrage, le fait que tu aies utilisé le verbe agresser pour le MJ, je m'attendais à quelque chose de peut-être plus incisif, plus punitif et plus disséquant dans le personnage.
Ouais, complètement.
Et du coup, je me pose la question si... Parce que c'est aussi une question d'attente. C'est que, par exemple, si on était tous partis sur l'histoire de l'anthropophagie ou tous partis sur l'histoire des yeux, peut-être que ça aurait provoqué des craintes et des attentes par rapport à cette thématique-là sur laquelle on aurait pu jouer et que, voilà, on aurait pu tous avoir... soit des pertes de vue, soit des yeux crevés, des fins. Quelque part, le fait de savoir que ça peut partir dans tous les sens et que Fabien réutilisera tout, ça diminue l'impact de ce qui peut se passer derrière. Alors que d'avoir des craintes sur une ligne donnée, ça pourrait rendre la chose plus agressive. Ouais.
Peut-être
choisir.
Il n'y avait pas une histoire un peu comme dans Prosopopée à un moment donné de choisir un paradigme pour la partie ou quelque chose comme
Alors il y a un paradigme, mais il est préparé par moi.
D'accord.
Le paradigme là, c'est la phrase de Pascal, le silence éternel de ces espaces infinis, mes frères.
D'accord, ok.
Alors c'est vrai que je me suis posé plusieurs fois la question dans la partie.
Attention à ton micro, Fabien.
Je me suis posé plusieurs fois la question dans la partie si j'étais assez agressif. Notamment, je pense qu'effectivement le personnage de Manu, j'aurais pu être beaucoup plus agressif. Et c'est vrai que je n'ai pas été très très agressif en fait dans la.
Incisif est le terme vraiment pour.
Ouais, Maxime.
Alors. Max.
Oui, mon temps, laissez pas beaucoup la place. C'est-à-dire que t'aurais pu être plus incisif avec nous, mais il faut dire ce qu'il y a. On s'est jeté sur les dés comme des. Comme des assoiffés, c'est-à-dire qu'il y avait au moins Fly et moi, on avait des idées, on avait trop envie de se jeter dessus. Après, voilà, comme disait Dorian, avec la mécanique ludique, il a vite senti que s'il voulait réussir quoi que ce soit, il fallait en prendre, donc il en a pris. Il n'y a que Manu qui ne s'est jamais vraiment sacrifié, qui a attendu qu'on lui en donne à la fin.
Attention Manu, parles en dehors des micros.
Disons que j'avais une ou deux de visions qui me semblaient parlantes mais je me suis aussi amusée notamment sur les trucs étranges à placer des éléments de couleur aussi. Donc après moi l'idée de jeter une boîte de dés m'a jamais vraiment passionnée, soyons honnêtes, et c'était plus quand voilà, j'avais envie de placer un élément de narration que j'allais chercher le dé plutôt que l'inverse. Quoi.
T'as pas joué le jeu.
Alors que moi, c'est vraiment l'inverse. Il me fallait un dé, il fallait que je trouve un truc à dire.
Ouais, et j'ai juste ce que t'as dit tout à l'heure, Max. Fabien, t'as dit « Ouais, j'ai pas eu la sensation que dans cette partie, chacun ait fait son truc de son côté, comme t'as vu dans d'autres parties. » Quand même un peu, quoi. Je voulais te contredire là-dessus, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, qu'on est un peu chacun parti sur notre délire, sans jamais, comme disait Manu, sans jamais se mettre d'accord sur un paradigme qui aurait pu nous réunir, parce qu'il y en a un qui est parti sur le trip du cannibalisme et qui l'a suivi jusqu'au bout.
Dorian.
Dorian. Il y a Fly qui est parti sur le trip de la glace et de quelle était l'élu princesse et qui l'a suivi jusqu'au bout. Et moi, je suis parti sur le trip du feu purificateur qui doit les arrêter tous. Et d'ailleurs, j'avais essayé de me lier à Fly en disant...
C'est venu plus tard, dit Dorian.
Oui, mais dès le début, j'avais cette idée de moi, je vais être celui qui doit buter, quoi.
Puis dans la fiction, t'as été rapidement enfermé, mis en prison aussi. Ouais. Puis t'étais sur la sécurité, toi, t'étais vachement. Voilà,
et au début, Fly jouait le côté je vais être passé du côté des méchants, donc moi, je m'étais donné la mission de buter Fly. Mais du coup, quand tu lui as rappelé par les règles qu'il fallait pas qu'elle soit ennemie de la source, je me suis dit bon, alors, je vais pas la tuer.
Je peux ajouter un truc merveilleux.
On a quand même vécu un peu chacun notre truc.
Avant que de te redonner la parole, Fabien, juste ajouter un truc merveilleux, c'est que depuis tout à l'heure, on était assoiffés par les dés et tout. Et ce qui est rigolo, c'est de noter que Christophe a choisi d'en faire un bol, de le mettre au bol. Et c'est rigolo que vous disiez, on est assoiffés, on a envie de boire à la source. La source qui est justement le nom de l'ennemi. Il y a une espèce de cohérence là, du point de vue des mécaniques et de la façon dont Christophe les a appelés, qui est intéressant. Le fait de mettre un bol, une fontaine au milieu de la table et que tous les joueurs comme ça ont envie d'aller chercher de l'eau à la fontaine etc. Enfin, là, il y a tout un truc parce que ça, la spatialisation des règles sur la table et des objets ludiques qui servent aux mécaniques, je sais que Christophe y a vraiment mis du soin. C'est pas un hasard s'il a pas choisi de mettre des dés 6, mais qu'il a vraiment choisi ces dés avec des formes bizarres, exprès, etc., etc. Donc ça, on peut quand même souligner que c'est quand même une des grosses, grosses qualités d'Innommable. C'est, pour moi, c'était la première fois, en tout cas, quand j'ai joué à un jeu de rôle, parce qu'Innommable, c'est un vieux jeu maintenant. C'était la première fois que je voyais un jeu dont les mécaniques et dont l'esthétique même des mécaniques et des objets présentés autour de la table était aussi cohérent et en adéquation à la fois avec les dynamiques des joueurs, mais aussi avec ce que le jeu racontait.
Pour répondre un petit peu à la fois aux critiques, aux différentes critiques à nouveau, je suis désolé, j'ai pas fait la liste, mais j'ai quand même une réponse globale qui est que donc Innommable étant pas tout à fait achevé, il pourrait sans doute avoir plus de conseils aux meneurs de jeu sur la manière de présenter de présenter les choses. Et je pense aussi que le côté loufoque dont on a parlé plusieurs fois fait partie sans doute des limites que Christophe a vues à son propre jeu, qui pour moi n'en sont pas, ou en tout cas ça fait partie des choses à accepter dans l'expérience de jeu. C'est-à-dire que vraiment, c'est un jeu dans lequel je prends tout de manière assez indistincte, personnellement. Ouais. Bon, il faut être honnête. Hein. C'est un jeu C'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué, donc forcément tes premières fois sont toujours plus belles que les fois suivantes. Même si sexuellement c'est pas la meilleure.
Non mais en termes de jeu de rôle, c'est clair que le premier jeu qui t'ouvre sur une autre pratique que celle qui est traditionnellement la tienne.
Comme les bouquins que t'as lus quand t'étais gosse, quoi. Bah, ou les premiers.
Tout ce qui ouvre des portes comme ça, c'est.
Enfin voilà, on se comprend, quoi. Donc forcément, j'ai un petit peu ça dans les yeux. À côté de ça. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très profond dans ce jeu qui me touche énormément. Il y a vraiment une manière d'amener l'hallucination, de parler de l'esprit qui se délite, du rêve, de ce vide fertile qui se crée autour de la table où on finit par absorber un peu les éléments les uns des autres, qui fait que moi, je passe volontiers sur les incohérences ou sur les trucs un peu strange de la fiction.
Dorian, vous voulez prendre la parole ?
Oui, je voulais rebondir sur quelque chose que Romaric avait dit avant le podcast, sur que lui, il y avait des mécaniques qui étaient restées obscures et peu transparentes pour lui et que ça avait participé à son plaisir de jeu.
Ouais.
Je sais que moi, notamment sur les mécaniques d'outrage et d'ancrage, j'aurais été moins ludiste et plus narrativiste si j'avais pas été au courant de ces mécaniques.
Moi, je pense qu'il faut les laisser un peu dans l'ombre, ces mécaniques. Hein. Moi, j'aime pas trop l'idée qu'on sache.
Maxime n'est pas d'accord.
Ouais. Maxime, t'es pas d'accord avec ça ?
Non, c'est mon côté ayatollah de la séfitude, quoi. Qui me dit que si je suis pas au courant des mécaniques et que d'un coup on m'a pas prévenu que mon personnage pouvait se faire charcler par le MJ et que je me fais charcler alors que j'étais pas au courant que ça pouvait m'arriver. Moi, je peux prendre ça très très mal au milieu d'une partie. Je peux me casser de la partie.
Moi, je peux te raconter mon expérience à ce sujet. J'avais mal compris les règles. J'ai pris 5 dés et Christophe, il a fait 5 coches et il a tué mon personnage. Et j'en ai jamais ressenti aucune frustration.
Toi peut-être, mais t'es pas tout le monde, quoi. Moi, je le prendrais super mal.
Flavie puis Fabien.
Moi, j'ai plusieurs choses à dire là. Je vais rebondir déjà sur ce que vous disiez. Moi, la première fois que j'ai joué, on m'avait pas dit en fait que on m'avait pas expliqué en fait le principe d'outrage, et on a vraiment charclé mon perso, petit bout par petit bout, et je l'ai très mal vécu parce que je trouvais ça injuste. Le fait qu'on m'explique avant, ok, on va te charcler, mais en fait, ça fait partie des règles. Je suis contente de le savoir. Par contre, j'ai un petit côté revanchard. Tu vas charcler mon perso, mais je peux te jurer qu'en contrepartie, moi, mon perso, il va charcler des trucs, quoi. Et je pense que ça joue aussi dans l'outrance dans laquelle je pars.
J'ai charclé ton scénar, quoi, en gros, quoi.
Ouais, j'ai un petit côté comme ça. Okay. Tu me charcles, je charcle. Mais je pense que pour ce qui concerne les règles, ce serait pas mal quand même d'avoir une toute petite fiche qui indique 2-3 petites choses pour les gens qui, comme moi, ont du mal à retenir, notamment les effets des dés. Et 2-3 petites choses qui t'indiquent combien de fois tu peux être coché sur ton ancrage et sur toi pour pouvoir retenir un petit peu les choses.
Très bien.
Alors moi j'ai 2 éléments à apporter. D'abord, je pense qu'il faut dire d'où vient cette mécanique d'outrage. Pardon. Christophe nous avait raconté une fois que quand il jouait à l'appel de Cthulhu, il savait pas quand il pouvait faire mal aux gens. Alors il a créé au départ, une de ses envies dans ce système, c'était de créer un système dans lequel ce soit très clair à quel moment tu peux prendre en plein la gueule et à quel niveau. Donc une manière d'encadrer le MJ. Moi, ce que j'ai toujours trouvé quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire donner un outil au MJ qui lui permette d'encadrer ce qu'il fait et d'encadrer son arbitraire. Et je trouve ça vraiment, je trouvais ça très très intéressant comme démarche. Tu vois, de dire je vais t'aider MJ à bien faire les choses, mais pas seulement avec des conseils foireux du genre laisser de la liberté, mais pas trop.
Ouais, mais le revers de la médaille, c'est que ça crée un phénomène très mécanique au final.
Alors oui et non.
Du coup, l'horreur devient prévisible.
Oui et non, parce que ma deuxième réponse, c'est que déjà, je suis pas sûr que ce soit de l'horreur en fait. On pourra en discuter. Mais ma deuxième réponse, c'est que je pense que c'est un jeu dans lequel il faut vraiment apprendre à utiliser les règles. Les règles t'ouvrent et structurent un espace de créativité qui est incroyable à utiliser, ouais, que je trouve super intéressant.
C'est un super terrain de jeu.
Je suis un peu désolé je trouve que c'est pas très propre comme argument, enfin
de dire ah ben oui, moi qui ai joué, je sais plus, j'ai dû jouer 30 ou 50 fois à Innommable, je vois des trucs et forcément j'ai un meilleur rapport au jeu. Mais je pense que c'est vraiment un jeu qui mérite d'y jouer plusieurs fois et d'apprendre, de voir tout ce que le jeu te permet de faire en cours de partie.
Manu?
Ouais,
et puis Maxime.
Moi j'entends bien l'argument pour dire quand est-ce que le MJ peut blesser, parce que c'est un truc que j'ai vécu plusieurs fois en tant que MJ aussi, d'être un peu rude physiquement envers les personnages et de me sentir pas forcément très bien par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que là, du coup, en tant que joueuse, j'ai pas. Et puis, le fait que ce soit sur une feuille A4 devant toi, Fabien, avec, enfin, c'est non à rayer. Il manque aussi peut-être le côté visuel. J'ai pas ressenti la boule au ventre de la tension qui monte. J'ai pas ressenti de souffrance.
Putain,
à te voir rayer.
Mais justement, mais c'est parce que peut-être il le faisait discrètement. Mais moi, je me souviens de Christophe. Ouais. En fait. Vraiment, Christophe a une attitude physique par rapport à ce jeu qui est complètement différente de celle de Fabien. Christophe, en fait, il a une espèce de portefeuille devant lui, c'est un support. Et donc, il joue le support levé devant toi. Et quand il raye, il le fait à la façon d'un Advocatus Diaboli qui raye un nom sur sa liste. Devant toi, il fait « Ok ». Il te montre le truc et il fait... Et dans la manière dont il tranche les... Tu vois, la manière dont il fait passer le crayon sur la lettre, il y a vraiment ce côté « je tranche », quoi. Et puis, il faut le voir avec le tremblement christophien, tu sais, quand il joue... Ok. Flaf, flaf, ça fait... Wow ça, moi, enfin, moi, j'en ai un souvenir de ça qui est complètement en contradiction avec ce que tu dis. C'est justement le fait de rayer et t'entends le bruit du crayon qui raye. C'est horrible, quoi.
Je l'entends d'autant plus que c'est quelque chose qu'on avait évoqué, par exemple, pour Sens et les points d'immersion, le fait que ce soit quelque chose d'assez rituel et que ça puisse être relativement fort. Et pareil, un truc tout con, mais les dés d'assistance... c'est vrai que la façon dont, pareil, il y a plusieurs jeux où on donne des jetons ou des dés pour l'approbation, par exemple, et souvent j'ai ressenti une petite émotion de tendre. Et là, on avait tellement la hâte de justifier qu'on a un peu tronqué cette émotion-là, peut-être. Donc, surtout à la fin. Donc, c'est vrai que voilà, moi, j'attends un poil plus de trip.
Maxime, il y a plein de choses à dire.
Moi, je veux revenir sur le fait que tu disais, Christophe, on n'est pas satisfait parce qu'il ne permet pas de générer du Lovecraft. Et je pense comprendre pour ce qu'il gêne, c'est que dans ces mécaniques, pour moi, on gagne, on monte en puissance. Et à la fin, ça me paraît difficile de perdre tous face à la puissance, à moins d'être face à un MJ qui a décidé de nous tuer. Parce que fondamentalement, en termes de... Enfin, ludiquement, moi, d'après les petits calculs que je peux faire, ça me paraît très compliqué de réussir à buter tous les PJ. Or, moi, si je me trompe pas, une ambiance Lovecraftienne, c'est une ambiance dans laquelle...
Sans être un salaud. Sans être un
gros salaud.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour avoir ses chances, il faut être un gros salaud.
Pour avoir ses chances en tant que MJ, de tuer tout le monde ?
Non, en tant que joueur.
Non, parce que regarde, tu peux, sans mourir et sans sacrifier ton ancrage, tu peux prendre 6 dés. Parce que 4 dés... Parce qu'il en faut 5 pour qu'on te tue, et tu peux en mettre 2 sur ton ancrage, ça fait que tu peux assez tranquillement prendre 6 dés sans prendre de... Et 6 dés, à une chance sur 2, plus relance, tu fais assez facilement 4 ou 5 réussites.
Oui, mais tu peux faire des 1 aussi, et je te rappelle que les 1 sur les dés que tu fais, ça augmente
ouais,
le
mais...
boss.
Toi, tu dis que c'était facile, moi j'ai raté à chaque fois.
Oui, mais
moi,
tu
j'ai raté
pas de
tout le temps.
Oui, mais après, tu rates tout le temps, mais voilà, tu relances, et puis au pire, tu sacrifies un truc. Bon, je trouve que... Je pourrais faire les calculs, mais je trouve que c'est difficile de perdre. Là où j'ai jamais joué de Cthulhu, je suis peut-être le seul autour de cette table. Mais j'ai l'impression que Cthulhu, l'ambiance, c'est plutôt... T'es quand même une belle merde.
Bah oui,
et chaque fois que tu découvres quelque chose, tu le payes très très cher et tu finis juste par te noyer dans la folie. Alors que là, on a une espèce de dimension héroïque parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on prend un dé, certes, on va y perdre quelque chose, mais on gagne en puissance. Enfin, moi, je me suis senti gagner en puissance en.
Du level up. Ouais. Dorian puis Fabien.
Toulouse, c'est pas un jeu qui se joue nécessairement en one shot aussi.
Ah, non, pas nécessairement. Non. Ouais.
Bah, moi, j'ai déjà fait 2-3. Oui, tu fais rarement plus de 3 scénarios. On est d'accord avec, personnage,
avec
mais...
un personnage. Un personnage de oui. faire rarement.
Mais est-ce que tu peux finir par lancer des boules de feu et devenir une étoile ?
Non, rarement.
Non, mais tu peux faire des sorts quand même.
C'est, on en parlait en début de scénar. De toute façon, je trouve le terme horreur métaphysique en fait mal choisi. Parce que Lovecraft, au final, n'est qu'un gadget au début pour pouvoir lancer une histoire. Mais au final, moi, j'ai pas du tout vécu une horreur métaphysique. Un trip métaphysique, pourquoi pas ? Un truc, voilà. Mais c'est on n'est pas dans de l'horreur.
Je disais que le genre est flou. C'est peut-être du merveilleux horrifique, dans le sens où ce qu'on cherche. Enfin,
c'est pas du merveilleux, c'est du.
C'est non, mais du merveilleux chose. Au sens l'irruption dans le quotidien du.
De l'étrange.
Du surnaturel. Non, parce que ça serait.
C'est de l'étrange, pour moi.
Fantastique.
C'est quand même bien chelou,
c'est vraiment de l'étrange.
Au sens littéraire, tu vois.
Pour moi, c'est de l'étrange au sens de Yann Kounen. Il ne m'a pas.
Ah, ouais, bah, y a un mot qui décrit ce mélange entre le loufoque et l'horreur qui est le grand guignol, en fait. Moi, je trouvais ça un peu grand guignol, surtout sur la fin, effectivement, aussi.
Ouais, il y a une dimension. Je ne suis pas super fan de ce terme-là. Hein.
C'est réduire un petit peu. Bah, je fous. Non, pour moi, c'est étrange, au sens du festival de l'étrange.
Tu peux en parler un peu ?
Je ne sais pas si vous avez déjà vu les films de Yann Kounen, par exemple.
Oh oui, mon Dieu, tu m'as montré ça.
Vibro Boy, par exemple. Vibro Boy, c'est du innommable. Plein la gueule. Si vous avez jamais vu ce court-métrage, il est accessible sur Internet. Faut aimer l'hyperviolence. Moi, je suis mort de rire devant ce truc. Captain X, c'est moins de Vibro. Vibro Boy, c'est du innommable. En un sens, je suis en train de me demander.
Sur la fin.
C'est complètement. Du début jusqu'à la fin, c'est du innommable. Même le début.
Si on avait vécu de l'horreur, moi je tiens à le dire, si le mécanique nous avait vraiment immergé dans une tension et dans une grosse horreur, je peux vous dire que j'aurais été très mal à l'aise et que j'aurais utilisé, tu vois, on a défini un symbole pour dire stop, l'équivalent d'une X-card. Moi je l'aurais utilisé parce que ce jeu il était à fond dans les thématiques, moi qui me foutent les jetons.
Cronenberg, c'est du
le truc. Le truc qui sort de nulle part et qui commence à prendre le contrôle psychique de tout le monde. Moi on est en plein dans les thématiques où je peux taper un gros flip et t'as vu à un moment on a cru entendre du bruit plus loin, j'ai commencé à stresser sa mère parce que c'était le moment de tension pour moi et du coup je vois pas comment, enfin en tout cas les mécaniques du jeu m'ont pas encouragé à flipper quoi, ça c'est sûr.
Je sais pas comment dire que moi la question du genre à la limite ne me...
Non, rien à foutre, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire en fait, on s'en fout de ce qu'a voulu faire Christophe et de l'adéquation, je suis désolé pour Christophe, on s'en fout de l'adéquation entre ses intentions d'auteur et le jeu qu'il a produit. Là, on juge le jeu qu'il a produit et sa richesse.
On juge la partie qu'on a jouée surtout. Enfin...
Et y a une,
ouais, mais on a fait plusieurs parties.
Une richesse de production, de fiction, d'esthétique, qui fait qu'il ne faut pas passer à côté de ça. Quoi.
Et une façon de le produire. Ce qui m'impressionne surtout, c'est la façon dont les mécaniques sont présentées
produites. Je ne connais pas de jeu qui stimule aussi bien l'inconscient avec, je trouve, si peu d'efforts, qui t'amène tellement à créer des trucs... Zarbe, étrange comme ça.
Mais tu vois, étrange.
Il n'y a pas une très grosse préparation et il n'y a pas un très gros effort. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de jeux qui arrivent à le faire, mais avec tout un background, tout un univers derrière. Et un jeu comme par exemple Prosopopée, et un jeu qui produit aussi des situations assez étranges, merveilleuses, mais plutôt dans le côté féerique de ce côté-là, mais ça demande une concentration qui est. Incroyable dans Prosopopée, on est presque en sueur à la fin d'une partie de Prosopopée, comme dans Shades.
Le silence aussi, comme dans Shades, voilà.
Tu vois, c'est un peu le même.
Le silence joue un rôle en plus.
Dans Shades aussi, tu vois.
Ouais,
et Innommable, je trouve, je sais pas comment le dire, arrive à stimuler l'inconscient et à évoquer l'inconscient d'une manière qui est vraiment vraiment unique.
Mais je trouve qu'il y a une hystérie aussi dans Innommable. Tout le monde se rue sur les dés, on décrit vite, il y a un côté
et moi j'aime bien ça, je trouve que ça fait vraiment partie du
mais horreur métaphysique, effectivement, ce que disait Fly, c'est peut-être mal choisi. Manu,
je suis en train de me demander si ça manque pas un peu aussi de description de décor, parce que c'est vrai que dès qu'on décrit quelque chose, on est dans de l'ambiance de l'action. Or, une ambiance, ça tient aussi beaucoup de ce qu'il y a autour de nous et les quelques films qu'on a pu citer. Peut-être qu'on aurait beaucoup plus flippé si on avait décrit, au lieu de décrire ce qu'on fait, si on avait décrit ce qui se passe au niveau des roches qui sont autour de nous, ce qui apparaît dans les murs, etc. Le silence, ta citation initiale parlait du silence et... Ouais, voilà, c'est... quelque part, on est beaucoup dans l'action et dans la parole. Ça manque peut-être un petit peu aussi de placement de tout ce qu'il y a autour. Jouer à se faire peur, c'est un peu ça aussi.
On a quand même parlé des ondes électromagnétiques de l'espace. Hein.
Certes.
Non, mais
Bah quoi, je t'ai sauvé avec mon vomi magique. Tu l'as sorti, tu as aussi dit j'ai bu Massimo.
C'est vrai que j'avoue qu'en début de partie, c'est assez difficile de rester dans le creepy et dans le sérieux quand les premières répliques, c'est le mec qui fait, c'est un gestionnaire qui te sort, bon bah on va, il fait un peu frisqué, on va aller chercher du fuel. Et quand les scientifiques font « Oui, alors j'étudie les ondes, électromagnétiques des étoiles. » T'es là.
Je sais pas comment dire qu'il y a une... Ouais.
En fait, il y a déjà...
Il y a à la fois un apprentissage et une forme de mise au diapason commun, tu vois, pour savoir ce qu'on a envie de faire tous ensemble.
Moi, j'ai le sentiment de me mettre au diapason des autres, tu vois. Parce qu'au début, j'étais vraiment, tu vois, genre je raconte un rêve un peu glauque, un peu en message, je réagis avec mon personnage un peu en sueur, et j'ai vu comment ça partait, j'ai fait « Ok, je vais me mettre au diapason, parce que sinon ça va être chelou, quoi. »
Moi, c'est l'attache que je trouve énorme dans ce jeu. Le système d'attache, l'ancrage, comment est-ce que tu mets en avant, en fait, ce qui te rend humain, comme un bouclier, comme un rempart à l'horreur, jusqu'à un moment donné t'en débarrasser et devenir inhumain. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Quand, par exemple, le personnage de Dorian, qui est attaché à son neveu, et qui va s'en servir, en fait, qui va le broyer dans les mécaniques ludiques du jeu, en fait, au fur et à mesure, qui va l'utiliser comme un chiffon carpette. Alors, toi, Dorian, tu dis, ouais, là, je vois un peu les fils, la mécanique est un peu trop, et du coup, ça me sort du narratif. Mais si on étudie. Moi, par exemple, j'étais assis dans mon fauteuil. Je voyais pas tout ce que tu avais dans ta tête à ce moment-là. Et moi, j'étudiais juste la fiction que tu as créée de ton point de vue, si tu veux. Et bah, je la trouve hyper touchante, hyper poignante et ultra glauque. Et à la fin, quand tu décides de le manger, alors qu'il t'a pendant tout, et si tu regardes bien tout le schéma de ton personnage, toutes ses actions, c'est toujours pour le protéger, toujours. T'as pris des blessures pour lui, etc. Et à la fin, ce sont la somme de ces blessures qui vont faire que tu vas le bouffer. Il y a un truc, je trouve qu'il y a un truc, si on prend juste ce personnage-là et qu'on le décortique d'un point de vue fictionnel, la fiction créée là, du point de vue du personnage de Dorian, waouh quoi. Tu vois, la manière aussi, faut pas non plus dire, ouais, on est dans le grand guignol, etc. Ouais, moi j'aimerais bien voir un film de ça, réalisé par un réalisateur qui a du talent, je pense qu'il y a moyen que ça fasse un truc de fou.
Ouais, moi j'avoue, quand Dorian a dit à un moment dans la fiction, ah, j'ai pas d'intérêt à le buter là parce que t'as vraiment hésité à dire je le sacrifie.
Ouais.
Moi, quand tu me dis là, a posteriori, ouais, c'est parce que ludiquement, j'y voyais pas d'intérêt. Moi, dans ma tête, j'étais là, ah, il se dit que narrativement, c'est pas intéressant que ça arrive maintenant.
Et surtout que t'as super bien joué, Dorian. D'un point de vue roleplay, là, j'emploie un vieux terme, d'un point de vue roleplay de mon temps, t'as super bien joué ton personnage. Tu t'es pas rendu compte, mais dans les phrases, dans les choix du personnel, d'enfermer des mecs, t'étais hyper dans le contrôle de toute ta base, tu t'entourais à chaque fois de tes gardes du corps, enfin, tu jouais hyper bien, quoi. Et du coup, ça rendait vraiment les situations hyper crédibles. Et même le vomi de sang.
Au fond de mon cœur, je suis de droite.
Louis-Émile de Réac.
Mais ouais, non, on a joué avec Louis-Émile de Réac, c'était très
bien. Non, mais c'était vraiment. Si on prend juste le personnage de Dorian, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait quand même des scènes qui étaient flippantes du point de vue de l'horreur émotionnelle.
J'étais pas sûr au début, mais c'est vrai que le thème de Cronenberg est pas.
Ah non, mais c'est du Cronenberg.
Enfin, avant History of Violence.
Oui, Vidéodrome et compagnie.
Vidéodrome et des. Ouais, oui,
même La Mouche, c'est du innommable. Pour un seul joueur, quoi.
Ouais.
Bah,
mais enfin, oui, il y a aussi cette espèce de délire un peu glauque, quoi, qui joue beaucoup.
Flavie.
Alors moi, à chaque fois que je fais une partie, et c'est pas mon premier innommable, je suis toujours partagée. Parce que d'un côté, il y a des choses qui me plaisent beaucoup dans ce jeu. Et de l'autre, à chaque fin de partie, je suis frustrée. Il y a toujours quelque chose où je trouve que ça a dérapé. Il y a toujours quelque chose où à un moment, je me suis dit, mince, l'histoire me plaît pas, ou ça part en cacahuète. Et du coup, il y a d'un côté un truc que je trouve vraiment chouette dans le jeu. Et à chaque fois, pourtant, à la fin de chaque partie que j'ai faite, il y a quelque chose qui me gêne.
Et c'est pour ça que Christophe, à mon avis, n'est pas satisfait. Il sent cette gêne chez certains joueurs. C'est vrai que là, par exemple, si on regarde autour de la table, il y a des personnages pour qui ça le fait de bout en bout. Le personnage d'Emmanuel, moi je trouve que ça le fait de bout en bout d'un point de vue fictionnel. Le personnage de Dorian, mais je trouve que le personnage de Flavie, on voit bien qu'à un moment donné, elle déconnecte complètement de la table des joueurs et elle part dans un esprit de délire divin qui colle plus, qui cadre plus vraiment avec.
Il y a un truc de règle pas, je sais pas à quel point c'était pas compris ou pas pris en compte de t'as pas le droit de trahir. Ton but en tant que joueur est quand même de vaincre la source.
Ah oui.
Alors que t'étais parti
je l'avais bien demandé en préliminaire pour être sûr. J'aurais demandé c'est quoi notre but quoi.
J'ai pas trahi. Ouais. J'ai créé une agence de surgelés.
Il y a un moment, c'était ouais.
Oui, j'ai failli, mais oui. Et dans ces cas-là, de toute façon, j'allais mourir si je trahissais. Mais j'ai été vraiment tentée aussi parce que j'étais en dehors du jeu. J'avais rien en fait qui me restait, qui me maintenait en fait.
Il y avait, c'est tellement important de bien choisir son ancrage.
Et oui, c'est pour ça que je vous ai dit au départ, quand vous avez fait vos ancrages, à un moment donné, je sais plus ce que tu voulais choisir, Fly, le fait d'avoir attaché un petit bandeau à un cerisier et compagnie, ça colle pas du tout à Innommable. La meilleure ancrage. C'est un personnage qui est dans la partie. C'est Dorian qui a fait le meilleur, selon moi, le meilleur ancrage.
Ou la relation amoureuse. Le personnage de. La première fois qu'on a joué ce truc-là, parce que c'est pas la première fois que je le fais jouer, Christophe, je crois, avait quelqu'un.
Très bien.
Par Skype. Et il restait en contact avec sa copine par Skype. Et il lui parlait, il lui jouait de la musique. Et à la fin, la musique lui permettait de parler aux étoiles.
Mais c'est, à mon avis, l'ancrage, c'est un point hyper important du jeu, qui est justement sur les conseils et tout ça, peut-être pas assez développé. Et si tu veux vraiment t'amuser à ce jeu, je pense qu'il faut vraiment prendre un perso comme ancrage, ton fils, ta femme, et
ton
pas un autre PJ surtout.
Chien, j'ai déjà eu ça, ton chien.
Pas un autre PJ, ça fait bugger le système.
Dans l'ancrage de Flavie, qui était la science,
ça, c'était
intéressant.
L'ancrage de Fly, ouais. Ah oui, c'est...
Que moi, j'aurais fait partir autrement. C'était le profil d'Anna Scully pour moi, un peu aussi, l'ancrage. Ouais, c'était.
D'accord, ouais. Ça peut le faire aussi. Fly, tu voulais ajouter quelque
chose ? En fait, moi, je l'avais pris pour ça. Et il y a plein de scènes où j'ai dit je vais chercher des trucs, je tape sur mon PC et tout. Et c'est un fait que tu n'as jamais joué de moment où tu. M'en faisais chier avec mon ancrage, quoi. Parce que je pense qu'aussi, tu l'as confondu avec l'ancrage de.
Ouais, il y a un moment donné où il y a eu une confusion. Ouais,
ouais j'étais pas tout à fait clair. Ouais.
D'habitude, c'est moi, la mort de la science, c'est ça.
Bah, c'est vrai, ça a dû jouer dans la confusion de Fabien, je pense. Donc, ça, c'est important, préciser la façon dont les ancrages interagissent dans ce jeu, c'est faut en faire l'expérience, et je pense que c'est intéressant. Maxime ?
Un petit truc à préciser, c'est qu'on a joué vite. Hein. Tu pensais que. Fabien nous avait dit on va jouer, ça va prendre 4 heures. La partie a fait 2h30, quoi. On a.
Ça, je vous l'avais dit.
Moi,
hein.
Ça a toujours été mon temps. Là, c'est la partie d'Innommable la plus longue que j'ai jamais faite.
Je crois aussi, ouais.
Moi, à chaque fois, ça n'a pas dépassé une heure
et demie. Moi, c'est une partie, effectivement, qui s'est passée très vite et parfois frénétiquement aussi, ouais, je suis d'accord. Je pense qu'en effet, c'est ce qu'on disait, ça manque de certains conseils. Que ce soit pour le rôle du MJ, parce que. Et pour les joueurs aussi, voilà, ce que j'allais dire, c'est que ça manque d'exemples d'utilisation des dés, ça manque d'exemples de bah, quoi raconter à quel moment. Parce que je pense que Christophe, il a très clairement dans sa tête l'idée des propositions qu'il aimerait voir entendre par les PJ, ou des bonnes parties d'Innommables qu'il a pu voir jouer. Je pense qu'il faut qu'il décrive, je pense que ça mérite des exemples.
Non, je pense que Christophe, il ne reviendra pas sur ce jeu.
Oui, non, mais s'il voulait, ça manquerait des exemples, quoi. Ça marche toujours bien les exemples. Personnellement, je garde la foi. Hein. Sur le site de l'Impromptu, il est affiché comme un des deux jeux de l'Impromptu, le jeu en développement Innommable. Donc, il ne l'a pas relégué dans un coin et il n'y a pas de raison de perdre espoir, homme de peu de foi.
Manu, puis Flavie.
Et ouais, je sais que c'est un grand classique du jeu de rôle, mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de pousser à une fin avec des cultistes partout à la Cthulhu. Et c'est peut-être un jeu qui peut trouver une autre porte de sortie.
Alors je vais, pardon, pour répondre tout de suite immédiatement à ça, j'avais essayé de faire des parties d'Innommables sans antagoniste. C'est pas terrible, ça patine beaucoup parce qu'au bout d'un moment.
Est-ce qu'on peut trouver un entre-deux où ça finisse pas en grosse baston ? Je sais pas.
Alors, du coup, je vais répondre aussi parce que j'avais parlé avec Christophe de ça et lui, à la base, il a créé ça pour avoir un Cthulhu qui marchait.
Mais oui.
Donc, du coup, dans un Cthulhu, tu combats un cultiste. Donc, je pense qu'il y a ça. Par contre, à côté, je trouve que ce qu'il faudrait retravailler, c'est qu'il manque un tempo en fait à ce jeu. Il manque quelque chose qui puisse vraiment. Alors normalement, quand tu mets les dés, c'est censé faire. Oui, mais du coup, on se jette tous sur les dés.
Bah, c'est ça un tempo.
Oui, mais du coup, ça correspond pas au tempo de la partie, à mon avis, que Christophe veut.
pour pouvoir instiller de l'horreur, pour pouvoir instiller quelque chose, il faut un rythme lent et sourd. Là, le rythme s'accélère. Et il y a, du coup, je pense, quelque chose à travailler là-dessus.
Mais non, mais Flavie, demain, je te fais une partie d'Innommable, je te mets ma musique. Déjà, rien que ça. Là, vous avez joué sans musique. Moi, je te fous de l'ambiance là-dedans. Tu vas voir ton horreur métaphysique, tu vas l'apprendre en pleine gueule.
Il y a aussi un autre truc, c'est qu'on joue quelque part les uns à côté des autres. Et à la fin, on se rejoint pour se donner plein de dés. On a même rigolé parce que ça faisait penser à Saint Seiya, parce qu'on n'était pas ensemble et qu'on était là, vas-y Seiyar, parce que ça tourne, je suis désolée, ça tourne pas à l'horreur métaphysique du tout. Il faut, pour qu'il y ait de l'horreur, il faut aussi pas qu'on soit les uns à côté des autres, mais qu'on vive le truc ensemble.
Ouais, mais en même temps, diviser pour mieux régner, ça fait aussi partie de l'horreur qu'Innommable propose. On doit se sentir tout petit face à la menace, bien unis. Je sais pas. Maxime, non ?
Non, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est juste que vu qu'on a très rapidement décrit la fiction, je voulais juste expliquer plus en détail comment ça s'est terminé parce que c'était drôle. Vas-y. Pour que les gens se rendent compte de comment, pourquoi est-ce qu'on peut être un peu frustré sur la fin.
Oui,
ça s'est quand même terminé avec les cultistes qui essaient de sacrifier le neveu de Dorian, qui lui, du coup, se jette dessus et par le pouvoir du sang bouffe son neveu.
Il le boit.
J'ai bu mon neveu pour le recracher sur le leader des cultistes.
Dans la même salle, juste avant, Flavie était arrivée en mode reine des glaces, en mode cultiste, soumettez-vous à moi, c'est moi votre reine. Il y en a la moitié qui ont commencé à se soumettre à elle et à se battre entre eux. Donc vous imaginez, moi, dans ma tête, une scène avec, dans un coin de la pièce, une reine qui arrive en mode soumettez-vous. Au milieu de la pièce, un mec qui se jette sur un espèce d'autel sacrificiel pour boire un mec. Là, t'as David qui rentre, le MJ dit qu'il y a une espèce de météorite qui arrive sur lui. Et par le pouvoir du feu, de la glace et du sang donné par ses amis, il réussit à créer une barrière qui bloque la météorite, qu'il renvoie sur Enrique qui était avec lui, qui, par le pouvoir du feu, balance la météorite sur tous les cultistes, puis se jette en l'air avant qu'un dôme se referme sur lui pour aller brûler un dieu millénaire dans les étoiles et brûler lui-même jusqu'à devenir une étoile.
Et tu as même fait le geste de Superman, genre tu volais vers l'infini et le-delà, quoi.
Voilà, c'était ça notre fin, donc voilà pourquoi le niveau d'horreur métaphysique à la fin t'es là en mode ok.
En même temps, voilà, c'est...
T'aurais pas dû raconter Christophe va nous tuer. mauvais.
Il en a vu d'autres. Hein. On parlait du Megaman qui se met à sauter partout.
On a joué ensemble. La fameuse partie Club Med.
Ouais.
Comment Megaman s'est retrouvé dans une partie d'Innommable?
Je sais plus, parce que je crois que mon personnage joue un gamer. Si, c'est ça. C'est parce que mon personnage jouait un joueur de jeux vidéo. Son attache, c'était une NES qu'il avait gardée depuis toujours. C'était un truc comme ça et c'est parti
LMG,
en main.
Ouais, je me souviens.
Là, du coup, tu vois, il y a un côté aussi Vidéodrome, tout ça. Comment il s'appelle déjà? Cronenberg. Le mec qui devient son jeu vidéo, il devient sa machine. Voilà, ça dépend des thématiques que tu veux aborder.
Et donc, Innommable, c'est vraiment un jeu que qui m'a permis de développer Sphinx, puisque ce que j'aimerais beaucoup, beaucoup arriver à faire un jour, c'est d'arriver à tirer ce qui me plaît tellement dans Innommable, dont j'ai déjà parlé, ce rapport à l'inconscient. Et la première tentative, ça a été avec Sphinx, c'est-à-dire de parler exclusivement de transcendance, en fait.
Maxime ?
Moi, je pense que honnêtement, Sphinx, j'ai fait qu'une seule partie. C'est pas un jeu que j'aime plus que ça, mais je trouve que t'as réussi, quoi. Moi, la seule partie que j'ai faite, j'ai ressenti une grosse angoisse métaphysique. Parce que je suis arrivé face à une espèce de question de tu vas jusqu'au bout, tu vas pas jusqu'au bout, avec la sensation vraiment que chaque découverte que mon personnage fait le rapprochait d'une fin. Et certes, tu gagnes de la connaissance, mais t'es prêt à y laisser ta tête. Moi, j'ai ressenti beaucoup plus d'angoisse dans ma partie de Sphinx plutôt qu'une espèce d'émerveillement, comme certains disent « Ouais, dans Sphinx, c'est trop bien, tu t'émerveilles. » Je dis « Non, moi, dans Sphinx, j'angoisse, quoi. » J'ai vraiment la sensation que plus tu découvres, plus t'angoisses jusqu'au dénouement final où... Enfin, je sais pas. Moi c'est du peu de parties de Sphinx que j'ai pu faire, j'ai ressenti beaucoup plus d'angoisse que dans Innommable.
J'apprécie le compliment, mais comme les auditeurs, c'est lui qui me connaissent, le savent, hein, Sphinx, c'est à la fois le jeu... C'est un jeu pour lequel j'assume pas beaucoup, sur lequel je suis pas très, moi-même, pas très content. J'ai pas l'impression d'être arrivé au bout. Alors que paradoxalement, c'est le jeu qui marche le mieux. Je peux même l'annoncer, il va y avoir une traduction en espagnol et
probablement une traduction en anglais qui vont suivre. Et c'est le jeu sur lequel je reçois le plus
de
retours positifs.
C'est un super jeu.
C'est de loin pas le jeu dont je suis le plus content.
Et j'ai l'impression qu'Innomab, c'est un petit peu une espèce de friche. C'est un jeu en friche. Et en fait, dans cette friche, il y a plein de choses à explorer.
Il y a des trucs tellement cool dedans. Il y a des choses tellement intéressantes. Ouais.
J'ai l'impression qu'on est trop fatigué ce soir pour pouvoir aborder l'intégralité de la richesse.
Je pense aussi que si Christophe n'a pas réussi à mettre le doigt sur ce qui cloche pour l'instant, alors qu'il y joue depuis des années. Enfin, c'est qu'il y a vraiment un... Comme je disais tout à l'heure, il y a des trucs qui me plaisent vraiment dans le jeu. Pourtant, je ne comprends pas pourquoi ça bug. Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose qui pourrait être génial, parfait. Et alors qu'il y a vraiment des choses chouettes, quoi. Donc, j'y ai joué une bonne dizaine de fois à ce jeu et je n'arrive toujours pas à mettre le doigt dessus.
Une fois, on était à un café ludique pour l'association avec l'association Droid Combo. Et avec Dorian, on discutait de ça. On disait, il y a des jeux qui sont fondamentalement mauvais, mais qui font d'excellents objets d'études.
Innomab n'est pas
fondamentalement mauvais, mais il fait partie de ces jeux qui sont pour le moins incomplets, on peut le dire, parce que Christophe lui-même le dit, il n'est pas fini, tu vois, mais qui fait un putain d'objet d'étude et duquel on peut tirer quelques leçons quand même.
Moi, je suis plus satisfait du podcast sur le jeu que du jeu en lui-même.
Parce que je trouve
le jeu plus intéressant après en avoir discuté qu'après juste la partie où je t'aurais dit « Ouais, je trouve ça trop mécanique, j'ai pas réussi à me mettre bien dans l'histoire. » Et maintenant qu'on en rediscute a posteriori, je revois mon jugement là-dessus. Mais tu m'aurais demandé juste un avis cash, tu mets entre 3 et 5 étoiles, entre 0 et 5 étoiles au jeu. Après une partie, j'aurais fait 2 étoiles, trop mécanique. Allez, hop.
Trop mécanique, ouais.
Moi, c'est un jeu qui m'a formé, donc si tu veux, à la force d'y jouer et d'y rejouer, évidemment, ça m'a donné des envies de création, quoi.
Est-ce que ce jeu n'a pas aussi vieilli ?
Bah oui.
Soyons honnêtes.
C'est vrai.
Parce que là, c'est quand même un jeu qui est aussi vieux que Sens.
Quasiment, hein.
Est-ce que c'est un jeu issu de la Forge ?
Pas un jeu issu des réflexions de Christophe autour de la Forge.
Parce que ça m'a donné cette impression, toute la mécanique, toute la narration tourne autour de cette prise de dés, cette espèce de truc qu'on voit dans les jeux de la Forge.
De ma rencontre avec Christophe, ça doit être autour de 2006, quelque chose comme ça, 2007.
2005, non ?
Alors,
est-ce que tu connaissais déjà Christophe quand on...
Je crois que mon inscription sur Salon Drift, c'est 2006. Mais... Alors que Sens est plus vieux encore, il date des années 2000.
Je comprends la réflexion de Fly, et c'est vrai que moi, par exemple, des jeux comme Monostatos ou même Sphinx sont des jeux qui peut-être souffrent un peu de...
C'était aussi un mode de montrer les mécaniques.
Laisse-moi finir.
Pour dire que c'est pas du jeu tradit, quoi.
Souffrent un peu d'un excès de confiance dans les mécaniques. Ça, je reconnais volontiers. Mais en même temps, un jeu qui a vieilli, oui et non, parce que je ne connais pas de jeu qui permette de faire aussi bien innommable, tu vois.
Qu'innommable.
Qu'innommable. Parce que, tu vois, je dirais un jeu qui a vieilli, ok, s'il avait été dépassé. Mais à l'heure actuelle, je ne connais pas de jeu qui a réussi à dépasser innommable.
Qu'est-ce que tu appelles faire du innommable ? Parce que je trouve ça obscur, là.
Maxime, tu dis...
Même question que Flavie, parce que tu dis, je connais pas un jeu qui fasse mieux du Noël, mais déjà, tout à l'heure, on a dit qu'on n'arrivait même pas à lui trouver un genre. Alors du coup, c'est quoi faire du Noël ?
Justement. Moi, pour moi, les jeux qui typiquement font exposer les gens à l'écart,
c'est ce que je disais tout à l'heure sur la stimulation de l'inconscient, de faire appel...
Shades ?
Ah !
Il le fait beaucoup mieux, je trouve.
Oui, mais pas avec cette même...
Pas collectivement, pas aussi collectivement, en faisant appel à
l'hallucination, au rêve.
Vlaine ?
Perso, j'ai pas du tout eu l'impression de jouer avec l'inconscient durant la partie. Mais alors, pas du tout.
Ça dépend des joueurs, en fait.
Dépend des joueurs, mais il se trouve que, pour ma part, ça a pas du tout été mon cas. Je me suis pas du tout mise à nu. Il y a aucun moment où je suis rentrée dans quelque chose comme ça.
Ouais, mais il y avait quand même une dynamique de vie fertile qui était pas super forte dans la partie, mais qui était quand même évidente, quoi.
Le rapport entre vie fertile et inconscient.
Ouais, moi non plus.
Bah si, parce que précisément il se passe quelque chose qui dépasse les participants.
Ça te pousse à dévoiler des choses dont toi-même tu n'étais pas conscient, tu vois.
Moi, à aucun moment, j'ai dévoilé ça. Hein.
Pareil, hein. À aucun moment, j'ai dévoilé des trucs
pas conscients. En plus, j'étais surtout beaucoup plus dans la rigolade et...
Et moi, j'ai utilisé.
Je veux manger des gens.
Moi, j'ai justement, quand bien même. Au contraire, utilisé des angoisses dans desquelles j'ai parfaitement conscience pour m'en servir dans le jeu comme.
Je parlais, oui, c'est, on ne se comprend pas sur le terme d'inconscient alors.
Mais
donc, ce que je veux dire, pour revenir à qu'est-ce que c'est faire du innommable, je ne connais pas de jeu qui permette d'avoir une telle profusion de création. Alors, si on ne peut pas utiliser le terme d'inconscient, de stimulation de l'imagination créative, si ça vous plaît mieux comme terme.
Alors, moi, j'ai un vrai questionnement là-dessus, du coup, parce que je vois ce que tu entends par profusion. Il y a plein d'idées. Mais ça fait partie des trucs qui me gênent dans innommable, en fait. Parce qu'à aucun moment on se pose pour en développer une.
Ouais. Mais alors qu'est-ce qui te plaît dans Innommable ?
Ce qui me plaît dans Innommable, c'est le début de partie, la première heure. Celle où il y a le début des hallucinations qui arrivent, où là il y a les trucs intéressants. Les j'arrive, les moments où on se sent obligé de parler avec des voix étranges, où là on rentre dans le jeu. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est à un moment où il y a les D8 qui arrivent, ou non, les D12 qui arrivent. Chpla ! Là ça casse. Et non, je peux pas te dire pourquoi.
Moi, peut-être Fly aussi, ce qui casse, c'est les moments où il y a les échecs des joueurs qui arrivent. C'est-à-dire les moments où il y a. Alors, moi, je maintiens que ce qui pose problème dans Innommable, c'est cette règle du si vous avez des. Vous pouvez relancer les dés impairs, donc les échecs, si vous décrivez un truc qui.
Peut-être que c'est simplement le passage à l'action,
c'est
en fait.
C'est ça. Pour moi, c'est la surenchère
peut-être
qui fait
que,
ça.
Peut-être que le fond.
C'est vrai que le moment
le fond,
où j'ai commencé à
faire ce que cherchait Christophe.
Pour moi, c'est sûr.
Ce que cherchait Christophe, dans le fond, c'est peut-être justement quelque chose qui devrait se passer de l'action. Si tu penses au Lovecraft, mais vraiment à Lovecraft, hein, pas August Derleth, pas au pulp dont parlait tout à l'heure Dorian, c'est toujours des fictions dans lesquelles il y a très peu d'action, dans lesquelles on agit très peu, on s'enfuit, on observe, on ressent, mais on n'agit pas. Et peut-être que ce que Christophe n'a pas pu sentir, mais n'a pas réussi à mécaniser, c'est arriver à faire une fiction qui reste intéressante tout en étant dans cette contemplation permanente.
Ouais.
Et c'est justement pour ça que Sphinx était une tentative dans ce sens-là de dépasser, parce que face aux ruines, tu peux faire que contempler. Tu peux t'en faire un peu, tu peux.
Je confirme que l'angoisse cesse à partir du moment où tu commences à sentir que tu as du pouvoir.
Ouais, c'est vrai.
Et peut-être que finalement, Innommable est un jeu qui s'autodétruit dans son système.
Ouais.
Puisqu'au début, tu prends des trucs et tu enrichis la fiction, mais du moment où tu lances les dés, tu n'es plus dans la contemplation.
Et même du moment où tu commences
à. C'est cette contemplation-là qui te plaisait, Fly ?
Oui. Et le moment où, du coup, tu te sens obligé de faire des trucs pour gagner. Alors qu'en plus, dans Lovecraft, t'es censé être dépassé par l'horreur métaphysique, alors que là, tu vas pas la dépasser, tu vas en devenir
bon,
une.
Bon, Christophe disait lui-même qu'il savait très bien qu'il faisait plus du Lovecraft. Hein.
Mais tu sais que c'est pour ça que je t'ai demandé, quand tu m'as parlé de Lovecraft au début, hors micro, la première chose que j'ai demandé, dès qu'on a coupé le podcast pour commencer la partie, c'est au fait, c'est quoi le but du jeu ? Est-ce qu'on doit défendre notre personnage ou est-ce qu'on est en play Toulouse ? Et la question était vraie, parce que moi, dans mon idée que j'avais d'un jeu d'angoisse et de Lovecraftienne, c'est un jeu dans lequel on va jouer à se faire un peu peur, quitte à charcler nous-mêmes nos propres persos jusqu'à une déchéance. Alors que là, non, tu m'as dit non, vous êtes là pour gagner contre la source. Du coup, d'un coup, bah oui, mais ça m'encourage plus à utiliser la mécanique pour devenir balèze. Et vu que la mécanique me le permet, c'est ce qu'on disait, ça tue un peu le côté angoisse du coup. Alors après, ça demande faire les deux en même temps demanderait une grosse posture d'auteur gênante peut-être, mais
je sais pas.
Il y a un autre truc qui me plaît dans le jeu, c'est les PV du méchant à la fin. Je trouve ça pratique. Le fait de devoir faire tant de réussites pour y aller, faut avoir accumulé assez de choses pour pouvoir faire la réussite. Je trouve ça intéressant. Mais du coup, pourquoi faire les dés ? Si tu as déjà accumulé assez de choses, est-ce que tu as vraiment besoin de lancer les dés pour... Parce qu'à la fin, même quand on disait bah, faut faire un truc étrange et inquiétant pour les relancer, tu es déjà tellement dans l'étrange et inquiétant que ça ne sert plus à rien. Donc, tu as déjà accumulé assez de dés en fait, pour te permettre de juste décrire comment tu vas poutrer le truc.
D'ailleurs, il y a plusieurs fois où finalement, les trucs étranges et inquiétants, c'est vrai, hein, Fabien, on a dit bon, ça va, relance tes dés, puisque de toute façon, c'est déjà tellement
c'était
bizarre.
C'était déjà étrange et inquiétant.
Dorian, tu voulais intervenir ? Ajouter quelque chose ? Non, d'accord, ok. Moi, en fait, ce qui me pose problème dans Innommable, c'est que à partir du moment où l'horreur est censée être à son paroxysme, c'est là justement que la belle machine mécanique de Christophe apparaît. C'est-à-dire, en gros, c'est là que le système de résolution du jeu apparaît en plein. Et du coup, l'horreur métaphysique s'efface parce que les dynamiques ludiques de la machine, tu vois, qu'on voit se mettre en place. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? C'est que les règles deviennent apparentes, ouais, à la fin du jeu. Et du coup, l'horreur métaphysique contre laquelle on lutte, on devrait lutter, c'est celle de la fiction. Et au final, on finit par lutter contre le jeu et les règles du jeu elles-mêmes.
Je dirais même que ce qui crée de l'horreur, souvent, c'est l'inconnu. Et c'est, oui, le moment où tu nous révèles que voilà, l'horreur pour la battre, elle a 4 PV. Donc du coup, Okla, on a toutes les connaissances, exactement, pour la battre, donc elle fait plus peur.
Exactement. D'où pour moi l'intérêt de ne pas révéler les règles de ce jeu. Moi, oui, si je jouais innommable, je jouerais sans révéler les règles. Parce que moi, je suis un enfoiré qui ne révèle pas ses contrats sociaux. J'en ai rien à foutre, je l'ai déjà fait dans le sens. Dans innommable, je le referais.
Tu peux le faire avec le consentement des joueurs en disant, je vous préviens, le contrat social est flou et vous n'allez pas connaître les règles. Et attention, vos persos, ils peuvent tout d'un coup mourir. Sachez-le dans notre partie. Point. Maintenant,
non,
on joue.
À partir du moment où tu parles de Lovecraft, tu dis, c'est comme dans les nouvelles de Lovecraft, t'as pas besoin du consentement des joueurs. Quand tu lis du Lovecraft, quand tu connais Lovecraft, tu sais où ça va, tu sais ce que tu risques. Ton personnage, bah oui, il risque de devenir fou, il risque de devoir sacrifier les siens pour éviter la folie ou pour éviter la mort.
Désolé, ouais, c'est des problématiques de Lovecraft. Ouais, utiliser des canons esthétiques comme ça, oui, c'est la façon dont toi tu les as compris. Il y a d'autres personnes qui ont peut-être pas compris Lovecraft comme toi, voire qui l'ont pas lu, et tu vas pas te priver de jouer à Innommable avec eux.
Bah dans ce cas-là, si.
Parce que moi j'ai jamais lu Lovecraft, j'ai jamais joué à Cthulhu, j'ai quand même joué à Innommable, tu vois, il a suffi de décrire un petit peu le canon esthétique, il a suffi de faire
tu peux l'expliquer au départ.
Voilà, mais c'est pour ça que moi je refuse les trucs du genre ouais bah c'est bon, j'ai dit que je faisais du Lovecraft, tout le monde a compris.
Je crois que c'est pas ce qu'a voulu dire Romaric quand il dit je fais du Lovecraft. Je pense qu'il suppose qu'après il va expliquer ce que c'est du Lovecraft.
Pour connaître un peu Romaric, j'ai un peu plus peur que non, ils se disent non mais c'est bon, on sait tout ce que c'est que du Lovecraft. Et or l'explicité.
Moi, en tout cas, j'ai pas peur de surprendre mes joueurs pendant une partie ou de surprendre les joueurs pendant une partie. Ça me pose aucun problème parce que.
Ouais, moi, je considère que c'est une attitude un peu dangereuse, mais.
Oui.
Chacun ses chefs.
Pas son truc.
Moi, je préfère le dire.
Un autre podcast à faire.
Moi, en tout cas, ce que je ne le ferai pas, justement pour la raison que je viens d'indiquer par rapport à Innommable, c'est que si tu le fais, tu révèles la mécanique du jeu et du coup, tu pousses à des dynamiques comme celle que décrivait très très bien Dorian, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu joues le jeu et tu ne joues plus au jeu. Et c'est ça qui. C'est ça,
oui,
moi,
là,
qui.
Là, il n'y a plus d'horreur possible.
Il n'y a plus d'horreur possible parce que c'est la mécanique elle-même qui devient la métaphysique du jeu et qui est l'ennemi contre lequel tu luttes, non plus la source, justement.
Parce que dans les règles sociales qui ont été posées, le fait qu'à n'importe quel moment on puisse avoir l'information de au nombre d'outrages où on en est, de dans quel état est notre ancrage aussi. Ça pousse à ça, là. J'ai regardé quand j'ai dit oui, je sacrifie mon ancrage et que je suis revenu dessus. C'est que je pensais que j'étais à 4. Je pensais que j'étais à 4 outrages, j'étais qu'à 3. Donc je fais, ah bah non, je prends un dernier outrage en fait.
Dernier point, j'en finis là-dessus. Moi, ce qui me fait un peu peur avec ton discours, Maxime, c'est que du coup, j'ai l'impression qu'on s'autorise plus à être bouleversé, quoi, en fait. Parce que le but d'un jeu comme
ça. Tu peux être bouleversé en étant sécurisé.
Non.
Si.
Non, ça,
j'y crois pas. J'ai raison.
Ok, très bien. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Moi, je pense que si on veut être bouleversé, on doit savoir se mettre en danger. Se mettre en danger devant des films, se mettre en danger devant des livres, se mettre en danger devant des idées.
Se mettre en danger, mais pas n'importe comment.
En dehors de sa zone de confort.
Tu peux te mettre en danger, mais par exemple, moi, quand je me mets en danger, c'est qu'autour de la table, je n'ai que des joueurs que je connais, avec qui je sais jouer.
Oui, voilà, c'est ça.
Et
c'est du
coup,
jeu de rôle, quoi.
Non, parce que tu joues pas forcément avec des gens que tu connais, tu joues pas forcément avec des gens sur qui t'es sur le même pied d'égalité, qui sont capables de faire la même chose que
ouais,
toi.
Donc il faudrait dire que Innommable est un jeu un peu comme Sens, qu'on ne peut jouer qu'avec des amis ou des gens qu'on connaît bien.
Bah, c'est important dans des règles de jeu, ce genre de choses. Moi, je suis
désolé.
Oui,
mais on n'a pas
quand...
les mêmes dynamiques et on va pas aussi loin quand on est avec des gens qu'on connaît pas.
Bah, peux avec des. Je suis désolé, mais moi, quand ça m'est déjà arrivé à Ondogène avec des inconnus d'aller très loin. Pourquoi ? Bah parce qu'on a défini un contrat social assez clair et qu'on a fait des ateliers pour se mettre en jambes. T'es pas obligé de connaître les gens par cœur pour pouvoir te lâcher. Tu peux aussi avoir. Tu peux. Mais ça, on le fera, on en parlera dans un podcast.
Pour un prochain podcast.
Mais ça, je peux démonter tes habitudes de bourgeois qui fait son JDR à papa chez lui avec ses mêmes amis depuis 20 ans, avec plein d'exemples.
Pas de problème. D'ailleurs, ces 9 saisons de la cellule auront bien montré que c'est toujours avec les mêmes amis que je joue au jeu de rôle.
Moi, pour conclure.
Moi, j'ai d'autres petits points, mais après, je t'en prie. Est-ce que vous n'avez pas trouvé par moment que vous étiez incité à ne pas agir par ce jeu ? Un peu comme dans ce podcast où chacun est incité à ne pas prendre le micro.
J'ai cru comprendre à un moment que de toute façon les actions des jets de dés c'était un peu laissé à la discrétion de Fabien. Moi, c'est au bout d'un moment, j'ai interprété les règles un peu comme ça en me disant, mais je décris ce que je veux faire, je décris ce qui se passe, etc. Et pour lancer les dés, lancer les actions qui peuvent échouer, etc. Je verrai ce qu'on me dit.
Ouais, je suis assez d'accord.
Moi, c'est une sensation vraiment que j'ai toujours eue dans Innomap. J'ai toujours eu l'impression qu'il fallait adopter la position d'Emmanuel dans cette partie. C'est-à-dire en faire le moins possible.
Non, parce que si on ne fait rien, déjà, il ne se passe rien. On est autour d'une table pour qu'il se passe des choses. Et deuxième chose, il nous a dit dès le début de la partie, Fabien nous a dit, mais si vous voulez, vous pouvez vous enfuir. En fait, même s'il nous a mis des bâtons dans les ronds pour s'enfuir, si je disais, je prends une voiture, je me casse, à mon avis, Fabien m'en aurait pas empêché. Juste mon perso faisait plus partie de la partie. Et je filais des dés aux autres.
Mécaniquement, il mourrait.
Ouais, mécaniquement, il meurt, mais c'est une option. Hein. Si tu veux mourir pour juste filer des dés ensuite aux autres, tu peux. Du coup, je me suis pas senti.
Très bien.
Au contraire, même, il faut avancer pour.
Ok, très bien. Ouais, non, c'est. Et du coup, à partir du moment où tu sais que quand tu avances, tu peux aussi être blessé, est-ce que c'est pas ça la mécanique de safe word ou de sécurisation qu'on peut trouver ? Non. Rien à voir ?
Ouais, pour moi, rien à voir.
Très bien. Donc, je ne comprends pas, c'est problématique.
Moi, c'est un truc aussi que j'ai vu dans la manière dont tu as joué. Moi, j'ai trouvé ça assez compartimenté entre les histoires qu'on racontait les uns les autres, au final. Et ce que j'ai trouvé, du coup, qui se passe aussi. D'un point de vue, moi, de ce qui se passait dans ma tête tout au long de la partie, c'est, bon, j'étais dans mon délire anthropophagie, depuis le début, et du coup, je me suis dit, je vais voir où ça me mène, je vais pousser le truc au bout, et si ça fait perdre la partie à tout le monde, qu'à cela ne tienne.
C'est le deuxième élément que je voulais aborder, excellent Dorian, parce que tu me permets de faire une transition, c'est les conflits entre joueurs. Élément essentiel de tout film basé sur l'horreur métaphysique, à mon avis, c'est la façon dont la team des PJ elle-même va réagir à cette horreur en s'entretuant. C'est le cas dans des Aliens, c'est le cas dans des films de zombies, c'est le cas dans plein de films fantastiques. La plupart du temps, l'ennemi n'est pas dehors, il est à l'intérieur. Et dans Innomap, je trouve qu'il manque un vrai système de jeu pour tailler aussi, pour que d'autres joueurs puissent tailler d'autres joueurs. Quoi. Et ça vous a manqué même au cours de cette partie. Il y a quand même eu deux ou trois scènes de conflits entre joueurs qui n'ont pas pu être résolues.
Excuse-moi. J'ai eu l'impression que tu l'es découragé, Fabien.
Parce qu'il sait pas, parce qu'on ne sait pas comment faire. Le jeu ne dit pas comment faire. Le jeu ne dit pas comment faire, Fabien, je me trompe.
Il n'y a pas de règles, je crois pas, non. Ouais.
Les joueurs doivent s'entendre.
Quoi. Tu nous as même dit à un moment, on s'est regardé, c'est un peu selon la logique, le perso de Dorian a dit, là je me jette sur toi, je te mets une baffe, alors que je venais de faire une réussite au dé, on s'est mis d'accord.
En disant, je le fais pas, parce que c'est pas cohérent si t'as réussi le jet de dé, etc.
Voilà. Et plus tard, je me suis quand même laissé mettre en prison, parce que je considérais que... Là, visiblement, il a l'autorité, j'ai fait des trucs un peu de fou. Voilà, donc ça a été...
J'avais poussé à cette décision aussi, souviens-toi, puisque j'avais rayé ton truc ne pas tuer, parce que t'as tiré involontairement sur quelqu'un qui essayait de te confisquer ton flingue.
Le reste, vu comment ça partait au début avec Flavie qui partait en mode Reine des Neiges, et moi en mode il faut que je tue l'élu des glaces, au début, moi j'étais en mode cool, ça va se finir en mode baston de la glace contre le feu, ou un truc dans le genre, j'avais pas vraiment d'idée précise. Le fait que d'un coup Flavie se fasse recadrer en mode ah non, on est tous dans le même camp, j'étais là ah merde, je vais pas pouvoir ni taper l'anthropophage ni la reine des glaces. Même à la fin elle m'a donné un dé, j'étais là non, je veux pas de ton dé à toi.
Il y a eu un conflit entre joueurs avec Manu et Dorian aussi, un peu larvé, sur la libération de Maxime qui n'a pas été joué non plus, du coup c'est plein qui a été finalement interrompu par l'arrivée, je crois, d'un PNJ,
d'un Pedro.
Parce que tous les PNJ s'appelaient Pedro dans la base.
Non, pour moi, c'était vraiment. J'essayais vraiment d'amener l'idée qu'il pouvait se dédoubler, en fait.
Ouais, voilà, de créer de l'ambiguïté, de l'horreur.
Je pensais qu'il y en avait 12 comme les 12 coups de l'horloge. Je pensais que tu allais nous mettre une douzaine de Pedro. On a fait des blagues racistes aussi pendant ce jeu, confession.
Pas trouvé tant que ça. Vous avez juste.
C'est pas plus l'accent marseillais.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez. Ouais. C'était pas des blagues racistes.
C'est l'accent que vous savez faire.
Des caricatures hollywoodiennes de certaines ethnies.
Et ouais, en plus de ça, bon, c'est aussi moi ce qui m'a donné l'impression que tu te décourageais, c'est que à chaque fois les tensions entre personnages étaient interrompues par un élément extérieur. Et mais même au-delà de ça, même les unions, les alliances entre personnages, puisque Flavie a démarré tout de suite sur un créneau où on s'entendait bien,
on s'entendait très très bien.
Et en fait, c'est pas non plus modélisé par un attachement, par
Est-ce qui fait qu'on par, l'a pas joué
par un heurt et par une violence quand l'un ou l'autre est mal, quoi. Ouais. Donc voilà,
oui, parce qu'à un moment, on a vraiment essayé de le jouer et je suis allée vers le perso de Maxime. Et donc ton perso dit bah non, je suis un peu jaloux, donc je reviens vers toi. Mais en fait, il n'y avait rien qui nous soutenait pour ça.
Ouais.
Du coup, et en fait, moi, à un moment, j'aurais bien voulu changer mon ancrage pour que ça devienne toi. Et je ne pouvais pas.
Mais ah non, mécaniquement, coup, ça fait
c'est impossible.
Ouais. Ça marche pas. Mais voilà, peut-être aussi au niveau des attaches, au niveau des ancrages, essayer de peut-être varier les ancrages et de proposer par exemple que certains ancrages puissent être des liens entre vous, entre les personnages.
Mais je trouve ça pas hyper. Enfin, des fois, c'est un peu. Je pense qu'il faudrait que Christophe fasse une liste d'ancrages possibles pour donner des idées, en fait. Ce serait pas forcément exhaustif, tu vois, mais des ancrages qu'il a déjà eu qui marchent bien.
Ouais, les gens. Moi, je peux dire que les gens, ça fonctionne très bien.
Et puis ce serait intéressant qu'un outrage sur un personnage qu'on aime bien nous blesse aussi, et qu'à l'inverse un outrage sur un personnage qu'on n'aime pas puisse poser du dilemme aussi. C'est pas parce que j'apprécie pas le personnage de Dorian que je vais apprécier le voir prendre une grosse blessure ou ce genre de choses. Donc c'est pareil, peut-être qu'il peut y avoir des répercussions des outrages qui pourraient être intéressants.
Ouais. Moi il y a quelque chose encore, je rajoute un dernier truc que j'adore dans Innommable avant de laisser Fabien conclure, c'est l'utilisation qui est faite des dés. C'est que, en fait, les dés ne sont pas utilisés comme d'habitude. Les dés, ce qui est intéressant sur un des 20, c'est qu'il va de 1 à 20. Là, en fait, les dés, ce sont juste des pièces qui jouent à pile ou face, en fait, puisque c'est pair ou impair. Il n'y a que, en fait, les chiffres extrêmes qui, si c'est 20 sur des 20, rajoutent un succès, et si c'est un 1, rajoutent un point de vie pour le boss à la fin. Et cette utilisation des dés complètement anormale, je la trouve assez fascinante. Comment il a eu cette idée-là, quoi ? Tu vois, c'est parce que c'est utiliser, je trouve, les dés d'une façon très originale. Et ça, rien que pour ça, je trouve que c'est un jeu qui vaut le détour, quoi.
Je vais peut-être dire une connerie, hein. Ouais. Quand on jouait à Saint Seiya, c'est pas comme ça qu'on lançait la pelletée de dés et on regardait ce qui était réussi.
Non, quand on jouait, donc pour expliquer, quand on jouait à Saint Seiya, on jouait avec le système storyteller de Vampire la Mascarade. Ouais. Et dans Vampire la Mascarade, c'est juste que les 10 valent pour un succès critique. Si tu as des 10 dans ton succès, ça risque de faire un critique. Et que les 1 annulent les succès. C'est juste ça. Non, non, les dés, au contraire, dans la mesure où tu peux avoir des difficultés 7, c'est-à-dire qu'il faut que tes dés 10 fassent 7 ou plus pour réussir, des difficultés 8 et des difficultés 9, tu utilises les dés pour ce qu'ils doivent être, à savoir des indicateurs de chiffres. Alors que là, les dés, finalement, sont utilisés d'une façon aberrante. Enfin, tu vois, c'est ça. Donc, ça veut dire que Christophe a bien choisi d'utiliser les dés et pas des pièces de monnaie, par exemple, pour des raisons... Oui, statistique, parce qu'effectivement, les chiffres extrêmes, bah, plus le dé rétrécit, plus les chiffres extrêmes sont faciles à obtenir, mais aussi pour des raisons esthétiques. Et je trouve ça, de voir des rôlistes se jeter sur des dés, etc. etc. Et ça, la manière dont ils utilisent des dés, j'ai toujours trouvé que c'était un truc, un charme d'innommable particulier.
Et donc, par exemple, en fait, le dé augmentait de difficulté aussi à chaque fois qu'on faisait un 1. C'était pas programmé dans ton scénar.
Non, il augmente de difficulté quand tu passes d'une étape à l'autre.
D'une horreur
ou
à une autre.
Ou quand le MJ recycle des éléments de... confirme en fait des éléments des personnages. Ce que j'ai fait 3 fois.
Ouais, moi je pense que, en tout cas, le truc qui m'a le plus frustré dans le jeu, c'est que ça manque d'une mécanique qui encourage à jouer sur le même tableau. Ouais. À pas partir chacun de son côté. Je pense qu'on est quand même des joueurs assez aguerris. On s'aime bien les uns les autres, on aime bien jouer ensemble. Bon, sauf Dorian, mais bon, il faut bien un quota. Hein. Ouais. Et...
je sais pas pourquoi.
Le quota des gens qu'on aime pas, c'est ça.
Exactement.
Dorian.
Voilà. Et du coup, je pense que quand même une petite mécanique qui encourage à ça, ou au moins une ligne, tu vois, une ligne de code, tu vois. Enfin, le dire aux joueurs, bon, il est possible que vous ayez des idées dans tous les sens. Vous êtes encouragé à réutiliser ce que les autres joueurs ont fait pour faire un truc. Tu vois, vu qu'on... C'est étrange, hein, parce qu'on n'est quand même pas des mauvais joueurs de jeux de rôle, je crois, et on ne l'a pas fait spontanément. Alors que c'est un truc que je me dis, dans la plupart des jeux, je le ferai spontanément. Je me suis dit que le MJ allait le faire pour nous, là, j'avoue.
C'est parce que tu prends le dé pour toi. Ton dé, il est à toi. Tu le prends pour pouvoir le jouer après. Donc il est à toi, donc il te pousse en fait à faire une scène. Sauf que c'est un peu compliqué en fait d'imaginer les trucs assez rapidement. Parce que quand les dés arrivent, t'as tendance, comme vous disiez, comme disait Rome, à se jeter dessus. Donc le premier truc qui te vient, quelle est l'histoire que t'as le plus retenue? C'est forcément la tienne, c'est forcément tes idées que t'as retenues le plus.
Ça joue. Dorian.
Après, comme c'est, il s'agit de mettre des idées, des images dans le pot commun pour reprendre des images que j'ai déjà entendu par ici, c'est vrai que moi j'ai tendance un peu à faire le forcing sur mes idées dans les cadres comme ça aussi. Ouais. Et par effet de répétition,
tout
parfois.
Tout le monde, je pense.
Oui. Ne serait-ce que par effet de répétition.
T'as lancé une idée, tu veux voir où elle
je trouve
va
que
quoi.
Ma façon de voir l'histoire qu'on a eue, elle est meilleure que la vôtre.
Parce qu'au final, si tu regardes bien les yeux, toi et moi, on en a eu dans nos histoires. On a eu des aurores boréales dans nos histoires.
La glace et le feu.
Moi, j'ai utilisé la glace parce que j'avais pas le choix, j'avais les yeux gelés. Mmh. Toi, t'as utilisé le feu. Emmanuel, elle a pas pu utiliser grand-chose.
Ouais. Elle a utilisé Flavie.
J'ai utilisé le perso de Fly, ouais.
Et toi, comme t'étais le chef un peu en dehors dans l'histoire... t'as suivi ton histoire, ce qui était assez logique.
Parce que c'est un capitaliste en même temps, tu vois.
Le moment où il avait fait sortir pour aller chercher des météorites.
Il y avait même un moment où j'avais une chanson que je répétais régulièrement, genre je préfère grinder des monquettes, quelqu'un qui mange des gens. Et au final, oui, il y a quelque chose comme ça qui s'est mis en place où on était pas tous sur la même longueur d'onde.
Ta conclusion, Fabien, à part le fait que tu sois fatigué et que tu aurais voulu.
Longueur d'onde électromagnétique.
Les étoiles se sont déplacées.
Est-ce que tu avais des choses à dire en plus?
J'invite vraiment les rôlistes à télécharger ce jeu qui est gratuit, qui se joue rapidement, qui se met en place rapidement. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Je les invite à aller se faire leur propre
opinion. Ouais.
Leur propre opinion, à aller trouver dedans ce qu'ils peuvent y trouver et à se le réapproprier. Ce jeu me fait un peu le même effet que le Dune de Jodorowsky. Tu sais, qui est ce film qui n'a jamais été achevé. Il y a eu un documentaire il n'y a pas longtemps qui est formidable, ça vaut vraiment la peine d'aller le voir, qui n'a jamais été achevé, mais qui en fait a irrigué toute la SF depuis les années 80-70, y compris Star Wars, y compris Matrix, me semble-t-il. Parce qu'ils ont créé tout un univers, mais ils ne sont jamais allés jusqu'au bout de leur projet.
Inabouti, mais très important.
Et voilà, c'est ça. Et voilà, ce jeu me fait un peu le même effet. Ok, il a plein de trucs qui ne vont pas, mais il est tellement intéressant, il arrive à faire des trucs qui restent mystérieux. Et je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller y jeter un coup d'œil.
Surtout vu le temps d'investissement que ça a de demander, ce que tu disais, tu télécharges, tu lis en une heure et demie, tu mets en place une partie en une demi-heure, tu fais une partie en deux heures et demie.
Je mettrai les préparations, les préparations que j'ai déjà sur mon site, comme ça on
gagne du temps. Disons qu'une soirée,
ça
un après-midi.
Vraiment une soirée, vous emmerdez, vous savez pas quoi faire, voilà. Il faut quand même une chier de dés.
C'est pas comme tous ces jeux de 350 pages où il faut déjà 4 jours pour les lire. 2 jours de réflexion pour digérer, puis une nouvelle journée pour les relire.
C'est pour ça aussi que, tu vois, Innomab m'avait beaucoup...
105 podcasts pour les comprendre.
C'est pour ça qu'Innomab m'avait aussi beaucoup séduit quand je l'avais découvert, parce que justement, il y avait ce côté-là d'être très, très léger.
Ouais. C'est un jeu qui fait en tout cas un bel objet d'étude, je trouve, pour des gens... Je trouve que c'est un bel objet d'étude, notamment pour les rôlistes qui n'ont fait que du jeu de rôle MJ joueur un peu traditionnel, pour comprendre en quoi justement des mécaniques qui sortent de ce cadre-là, parce qu'il y a quand même un MJ, tu vois, il y a quand même une sorte de meneur de jeu dans Innomab. Comment il s'appelle d'ailleurs? Il a un nom particulier.
Oui, le maître du destin, MD, le maître du comme. Destin. Comme le maître du donjon. Je sais que il y a plein de blagounettes dans Innomab, notamment le fait que, par exemple, le maître du jeu a le même nom que. Les initiales sont les mêmes que ceux du meneur à
Donjon et Dragon.
Donjon et Dragon. Oui.
Et voilà, c'est un jeu aussi pour ça, je trouve, pour des gens qui connaissent
le gardien du mythe.
Le gardien du mythe.
Game Master, évidemment. Ouais. Ouais.
Donc, et en même temps, ça fait référence aussi à Cthulhu, puisque dans le, il me semble que dans l'appel de Cthulhu, le MJ s'appelle le gardien.
Ou le gardien du mystère, ça dépend.
Ou le grand méchant.
Donc voilà. Donc voilà, moi je pense que c'est aussi un jeu qui est intéressant pour ça. Pour faire la transition entre des jeux avec des mécaniques plus impactantes, on va dire, sur ce qui est raconté autour de la table. Eh bien, merci Fabien de nous avoir exhumé ce jeu. Ça faisait longtemps qu'on voulait comme ça vous en proposer un podcast. Merci Emmanuel. Merci.
De rien, avec plaisir.
Merci Maxime.
Plaisir d'offrir.
Et puis bah merci Dorian. On dira.
Pas de rien, dit je vous en prie, donc je t'en prie, Romain.
Très bientôt tout le monde.
Ciao.
Bisous.